Vous avez le résumé d'introduction de Lambert Barthélémy concernant la définition de cette problématique, mais je pense que la journée va certainement y contribuer. Donc écoutez, c'est passé d'une manière assez étonnante, c'est que Lambert en fait m'a téléphoné pour me dire je voudrais faire une journée d'études sur l'imagination environnementale. Je me suis dit pourquoi pas. Mais comme c'est un partenariat, comme on travaille en partenariat avec l'espace MADES France, et quand on travaille en partenariat avec l'espace MADES France, on met nos réseaux en commun. Donc j'ai dit à Lambert, vous connaissez du monde, moi je connais du monde, donc on va chercher des personnes pour intervenir sur cette thématique, en particulier, moi je travaille en particulier sur le pôle d'histoire des sciences et des techniques et philosophie des sciences. Donc je remercie nos amis d'être là aujourd'hui et des récidivistes, je crois que Raphaël Larère, ça fait 4 fois qu'il revient à l'espace MADES France, ou 3. Et Catherine, ça fait la 2e fois, donc c'est un très grand plaisir de vous voir aujourd'hui, de vous écouter. Et je sais que Gilles Clément va arriver, il est là aussi grâce à la contribution de Jean-Luc Terradios, rédacteur en chef de l'actualité, qui le connaît bien. Donc je n'ai pas grand-chose à dire, seulement vous souhaiter la bienvenue de la part de notre directeur et de la part de l'espace MADES France, et remercier vraiment infiniment Lambert de sa confiance, parce qu'on a travaillé par mail et puis par téléphone, et puis tout s'est goupillé très bien. Et vraiment, c'est une magnifique journée et on la doit à vous et aux intervenants. Donc, j'espère qu'il y aura des actes, on en reparlera. Donc, je passe la parole à Lambert Barthélémy. J'espère que je n'ai rien oublié. Et aussi, un autre récidiviste, c'est Denis Mélier, qui adore venir chez nous. Ça vaut au moins la 3e fois aussi. De passant Jules Verne à d'autres contributions. On aura aussi un grand plaisir à le retrouver. Voilà, les professeurs d'université qui se décentralisent, c'est toujours intéressant pour nous, et vice-versa. Donc, bonne journée à tous, et merci encore, Lambert.
Bon, c'est à mon tour de remercier pour ouvrir. Bien sûr, l'espace MADES France, à travers Anne Bonnefoy, les conférenciers qui ont bien accepté de venir et de nous présenter donc diverses approches, soit à partir de divers supports, soit tout simplement à partir de divers regards, sur la question de l'articulation au fond entre la culture contemporaine et la question environnementale ou les questions environnementales. Il y a, comme chaque fois qu'on peut faire des plans sur le réel, quelques petites modifications impromptues qui interviennent, comme s'il était impossible véritablement de maîtriser la réalité. Donc le petit programme qu'on avait construit a connu quelques déplacements, je vous les signale. Donc Gilles Clément ne pouvait pas être là à 9h pour ouvrir les discussions, et Hicham Afeissa a très gentiment accepté de se substituer à lui comme conférencier d'ouverture. Donc on va commencer par son intervention qui porte en partie sur le livre de Marie Shelley, Le dernier homme, et puis sur l'imaginaire qui a pu se développer à partir de cette figure du survivant post-catastrophe. Et il y a également Tom Pugh qui devait venir nous parler de pastorale américaine à partir de l'œuvre de Rick Bass, ne peut malheureusement pas venir. Et on a dû opérer une autre petite substitution, c'est Denis Mélier qui donc parlera à 11h45 du néo-western. Et normalement, voilà, pas d'autres modifications sont intervenues. Donc on devrait tenir le planning, même peut-être finir un tout petit peu plus tôt. Bon, alors, je vais, comme on est déjà un petit peu en retard, pas parler très longuement, simplement indiquer pourquoi cette proposition en fait, pourquoi cette idée de journée d'études, et pourquoi l'avoir un petit peu construite et pensée sous une forme qui n'est pas justement, je dirais, monothématique ou monodisciplinaire. Ben précisément parce que les questions environnementales sont à la croisée, je crois, des questionnements scientifiques. Ça, nécessairement, c'est peut-être même l'une des caractéristiques de la période contemporaine, c'est que ce sont des questions qui sont de plus en plus posées à travers la compétence scientifique, mais ce sont aussi des questions culturelles, nécessairement, des questions de représentation, des questions de traitement symbolique des données scientifiques ou des états de connaissances auxquels la science contemporaine est parvenue. Donc il y a une perspective culturelle, je crois, à développer, à ouvrir sur ou à partir de problèmes liés à la crise écologique. Et c'est la deuxième grande, peut-être, particularité, parce que cette question en philosophie, en littérature, ou tout simplement la question de la... De l'articulation de l'art au paysage ou à la nature est une question ancienne, mais elle se repose peut-être de façon particulièrement violente à partir des années 60, à partir des premières alertes, Rachel Carson et les autres philosophes ou écrivains qui commencent dans ces années-là à poser la question justement en termes scientifiques aussi, de façon de plus en plus précise. Donc, ce qui caractériserait peut-être la période, c'est cette question de la crise environnementale globale. Le fait peut-être aussi à voir qu'elle est en train de constituer ou de reconstituer dans une époque, la postmodernité, disons, pour faire vite, qui s'est débarrassée, soi-disant, des grands récits, elle est peut-être en train de reconstituer une forme de grand récit, cette question de la crise environnementale. L'autre caractère peut-être contemporain, c'est la dissémination des traitements, des représentations de cette crise dans les divers médiums artistiques, d'où la nécessité, dans l'idée que j'avais, de travailler de façon interdisciplinaire, de solliciter bien évidemment la réflexion philosophique, de solliciter la littérature, mais aussi les diverses formes d'expression artistique qui peuvent être concernées. Donc nous entendrons des... communication sur l'architecture, sur la danse, sur le cinéma, bien entendu, et sur le land art. Donc voilà, interdisciplinarité nécessaire d'une certaine façon, généralité, dissémination des représentations dans l'ensemble des strates culturelles. Ça ne concerne pas justement que la question de la culture savante, dirions-nous, mais aussi, nous le verrons ce soir grâce à Chabi Molia, la question est en train de complètement devenir une sorte de bien commun de la culture populaire au sens le plus large du terme. Donc c'est une question voilà, à la fois extrêmement diversifiée et globalisée. Je m'arrête là, c'est simplement les deux, trois petites perspectives que je voulais souligner en commençant. Et je vais tout de suite me tourner vers Stéphane Hicham-Afeissa, qui est agrégé de philosophie, qui enseigne... donc dans l'Académie de Dijon, et qui est, on peut peut-être le dire, l'un des spécialistes français, en tout cas l'un des philosophes qui a travaillé abondamment à la fois à la diffusion de textes nord-américains, pour l'essentiel, qui sont déjà pour certains anciens, mais que le lectorat français, disons le lectorat général, pas le lectorat de spécialistes, ignoré jusqu'à une date récente. Il a fait un travail phénoménal, pour ma part je le trouve tel, de traduction, de présentation, de diffusion de ces textes ou de ces approches, puisque le terme est quand même, il faut le comprendre aussi comme toute une famille de pensées, donc c'est pas monolithique, et les ouvrages parus chez Vrin ou chez Musica Falsa donnent tout à fait la mesure de cette diversité. Alors aujourd'hui je crois que la question s'est un petit peu déplacée vers la littérature pour lui, puisqu'il va nous présenter une réflexion basée sur le livre de Marie Shelley, Le dernier homme, donc sur un livre de la toute fin du 18e, peut-être même non, du début du 19e, 1820. Évidemment, cette figure a connu un développement ultérieur abondant, puisqu'on peut considérer qu'elle est un peu la clé des figures ou des représentations liées au post-apocalyptique, donc à des choses qui sont aujourd'hui encore tout à fait d'actualité dans l'air du temps. Nous vous écoutons.
Merci. Alors, ça marche. Oui. Merci beaucoup, Lambert, de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci pour leur été responsable aussi. Du lieu où on se trouve, qui est magnifique. Alors, le titre de ma conférence est donc « Imaginaire du dernier homme et éthique environnementale ». Alors, le point de départ de ce que je vais vous présenter aujourd'hui se trouve dans un étonnement. Je crois que tout lecteur des textes philosophiques issus du courant donc anglo-américain dont on vient de parler rapidement, d'éthique environnementale, qui par ailleurs est un peu aussi instruit de ce qui se fait en France en philosophie environnementale, instruit de la manière dont on traite ces problèmes-là et surtout du ton sur lequel on en parle. Donc tout lecteur sera surpris de voir que les textes philosophiques d'éthique environnementale se distinguent donc de la tradition, si vous voulez, française ou européenne sur un point qui est vraiment très frappant, c'est l'absence quasi totale de considération ou de perspective apocalyptique. Lorsqu'on lit des auteurs comme Michel Serres ou Anjonas, on remarque assez vite que le ton qu'ils utilisent est un ton qu'on pourrait dire angoissé. Il est angoissé par la perspective d'une catastrophe environnementale à venir, une catastrophe prévisible à laquelle on ne peut se soustraire que si on modifie notre manière de vivre, que si on révise notre conception du monde, si on révise la conception de la place qu'on occupe dans la nature, etc. Donc un ton angoissé. Mais quand on passe ensuite de l'autre côté, du côté des textes d'éthique environnementale, en tout cas moi c'est vraiment ce qui m'a frappé dès le début, c'est qu'on ne trouve aucune trace pratiquement de cette rhétorique apocalyptique. J'en parlais il y a quelques temps avec Dominique Bourg, que vous devez connaître, et il me disait, là, je me suis souvenu de cette phrase-là, qui est tout à fait de lui, quoi, il me disait, oui, les penseurs d'éthique environnementale n'ont pas le sens du tragique. Alors, dans sa bouche à lui, il faut l'entendre sur un mode négatif. Hein. C'est-à-dire que c'est une des limites ou une des faiblesses, ouais, de ce discours-là, pour lui. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas, au fond, vraiment la mesure de l'urgence et de la gravité de la situation dans laquelle on se situe. Alors, je lui laisse la responsabilité de ce jugement, ce n'est pas du tout ce dont je veux parler. En tout cas, le constat, comme tel, ne me paraît pas faux. Effectivement, il y a une différence de ton qui est assez étonnante. Alors, pourquoi cette différence m'a intéressé? Ça m'a intéressé parce que depuis quelques années, ça va faire maintenant 2 ans, j'espère que ça finira par donner lieu à un livre, j'essaye de travailler à ce que j'ai appelé une généalogie philosophique du questionnement écologique contemporain, c'est-à-dire que j'essaye d'inscrire le discours écologique contemporain dans la perspective d'une histoire, d'une très longue histoire, en essayant d'établir ce que j'ai appelé un système d'analogie discursive. C'est-à-dire que j'essaye de montrer qu'il y a des concepts, il y a des métaphores, il y a des démarches argumentatives, des procédés de problématisation qui ont été transférés comme ça d'un cadre théorique à un autre. Alors, je vais prendre juste un petit exemple pour que vous compreniez dans quel cadre je travaille. Par exemple, dans le cas de Hans Jonas, j'ai essayé de montrer que la façon dont il pose le problème de la crise environnementale procède de la façon dont le problème de la bombe atomique a été posé, notamment par Karl Jaspers. Et l'emprunt, en l'occurrence, est un emprunt, j'ai essayé de montrer ça, méthodologique. C'est-à-dire que ce qu'il est allé chercher chez Karl Jaspers, c'est tout simplement le procédé de méthode, ce qu'il appelle l'heuristique de la peur. Alors voilà un transfert que j'ai trouvé intéressant. On passe d'un cadre théorique à un autre. Toujours devant le cas de Hans Jonas, j'ai essayé de montrer que certains des concepts moraux avec lesquels il travaille, par exemple le concept de remords anticipateurs, alors ça c'est un peu vicieux, le remords anticipateur, ça signifie qu'il faut se repentir du mal qu'on n'a pas encore commis pour trouver la force de ne pas le commettre. Et c'est un concept qui est important vraiment dans la construction théorique de Jonas. J'essaie de montrer que ce concept-là, il provient de la scolastique médiévale, où les penseurs du Moyen-Âge ont cherché à tirer les leçons morales du texte biblique de l'Apocalypse, sous le nom de repentance préventive. Repentance préventive, remords anticipateurs. C'est étonnant. Alors, voilà, j'essaye d'établir ce genre de filiation théorique, comme ça, un peu dans tous les sens. Et l'idée, ce n'est pas de dire qu'il y a un emprunt conscient et délibéré. Ça ne m'intéresse pas du tout de savoir s'il sait ça ou pas. Bon, dans le cas de Jonas, je crois qu'il ne sait pas. Repentance préventive, je crois qu'il ne connaît pas cette tradition-là. Mais peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est ma démarche. J'essaye de déconstruire un discours. Et j'essaye de comprendre son mode de fonctionnement. J'essaye d'établir un système de relations, voyez. En ce sens, plutôt que parler de généalogie du discours écologique, je pourrais parler d'archéologie. Au sens où Foucault parlait d'archéologie et du point de vue de la méthode, c'est clair que je lui emprunte beaucoup. Ce sont des démarches qui se ressemblent. Bon, alors je reviens à ce que je disais. Donc, point de départ, c'était le ton n'est pas le même. Alors, pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de perspective apocalyptique, qu'il n'y ait pas ce ton angoissé, etc., pour moi, c'est gênant, c'est dérangeant, parce que ça marque un échec de la démarche que j'essaye d'adopter, à savoir que là, il y a tout un courant de pensée énorme, le courant d'éthique environnementale, que je n'arrive pas à connecter à un système d'antécédents, et un antécédent majeur qui est la pensée de la fin du monde et de l'humanité. Donc, de mon point de vue, c'est dérangeant. Il y a un échec qui m'agace. C'est dérangeant, mais bon, après tout, on dirait qu'importe, quoi. Ça marche pas, puis ça marche pas, c'est tout, quoi. Mais non seulement c'est dérangeant, mais en plus c'est curieux et puis c'est franchement insolite. Pourquoi est-ce que c'est insolite, cette absence de perspective apocalyptique? Parce qu'à l'époque où le courant d'éthique environnementale se forme, commence à s'élaborer, donc si vous voulez, grosso modo, années 70, c'est pas les discours apocalyptiques, les prédictions apocalyptiques en matière environnementale qui manquent aux États-Unis. Au contraire, le marché du livre a été littéralement inondé entre les années 50 et les années 80 par des publications, alors littéraires, journalistiques, scientifiques, philosophiques, de ce genre-là. Alors, sans prétention à l'exhaustivité, je ne vais pas tous vous donner les références, j'ai trouvé une vingtaine de livres qui, alors, il faut noter ça, se sont extrêmement bien vendus. Oui, ce n'est pas des livres de publication comme ça, confidentiels. Une vingtaine de livres, dont certains sont très connus, ceux de Paul Ehrlich, Rachel Carson, Barry Commoner, Hal Lindsey, qui, alors, lui, a le record, c'est le pompon. The Late Great Planet Earth s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde. Donc, il y a eu énormément de livres comme ça qui ont été publiés entre les années 50 et les années 80. Il est impossible que les théoriciens d'éthique environnementale n'aient pas eu vent de ça. Il faut vraiment vivre sur la planète Mars pour ne pas avoir entendu parler de ces discours alarmistes et catastrophistes. Et il n'est pas possible qu'il n'ait pas remarqué que c'est dans ce contexte-là que la crise environnementale s'est constituée comme objet de réflexion prioritaire. Alors, on trouve de temps à autre des références à ça, mais sur un mode anecdotique dans la littérature d'éthique environnementale. Ce qui me semble important, c'est que la perspective apocalyptique n'est pas la perspective dans laquelle leur propre discours se forme et s'organise conceptuellement. Bon, voilà, donc j'en étais là de mes réflexions. Et je me suis dit, est-ce que c'est si sûr que ça? Est-ce qu'on ne peut pas connecter? En fait, si, il y a quand même un texte, et un texte majeur. Ce n'est vraiment pas un texte secondaire, un texte qu'on considère comme étant fondateur de la problématique d'éthique environnementale, dont l'inspiration est clairement apocalyptique, c'est le texte de Richard Routley, qui est publié en 1973 sous le titre « Y a-t-il, moi je vous le donne en anglais, Is there a need for a new environmental ethics ?» Ça a été traduit, auquel on prête généralement la toute première élaboration du concept de valeur intrinsèque. Et le concept de valeur intrinsèque, en tout cas pour le début de l'éthique mentale, les 15 vers premières années, ça a été un concept extrêmement important. L'éthique mentale s'est organisée autour de ce concept-là. Eh bien, on considère que c'est dans le texte de Routley que la première formation de ce concept peut être enregistrée. Je vais vous présenter brièvement l'article de Routley. Alors, l'objectif de Routley est de montrer qu'il y a certaines actions qui sont nuisibles à l'environnement naturel pour la condamnation morale desquelles les traditions morales occidentales prédominantes sont impuissantes. Vous voyez, il y a des actions qui sont nuisibles à l'environnement, mais qu'on n'arrive pas à condamner. En tout cas, sur la base des traditions morales occidentales qui sont prédominantes. Alors que, on a pourtant l'intuition que ces actions devraient pouvoir être condamnées moralement. Bon, l'article, c'est ça, en deux mots, c'est ça l'idée de l'article. L'article est complexe du point de vue de l'argumentation. Routley est un auteur obscur. Franchement, parfois, on n'y comprend plus rien. Donc, je ne vais pas rentrer dans son argumentation. Je vais juste me tourner directement vers les exemples qu'il donne et qui jouent un rôle très important dans son argumentaire. L'exemple le plus intéressant dans la perspective qui est la mienne, c'est évidemment l'exemple du dernier homme. Il dit ceci, je vous donne un petit morceau de phrase. L'exemple du dernier homme, seul survivant d'une catastrophe mondiale, qui entreprend d'éliminer autant que faire se peut tous les êtres vivants, qu'il s'agisse d'animaux ou de plantes. Donc voilà, Routley dit à peu près la chose suivante. Imaginez le dernier homme, donc survivant d'une catastrophe mondiale, qui tout d'un coup, oui, juste avant de rendre l'âme, se dit, tiens, je vais détruire tous les animaux, tous les êtres vivants que porte la Terre, ou je vais détruire toutes les plantes. On a l'intuition que s'il fait ça, eh ben, il agit mal. Or, voilà l'argumentation de Routley, l'action du dernier homme ne porte préjudice à aucun être humain, puisqu'il est le dernier survivant. Donc, il n'est pas vrai qu'une action, pour être condamnée moralement, doive porter préjudice à un être humain, ou aux intérêts d'un être humain. Ou encore, on peut présenter le raisonnement d'une autre manière, en détruisant les êtres vivants que porte encore la Terre, le dernier homme ne détruit rien qui est une utilité pour un autre être humain. Or, on a l'intuition que le dernier homme détruit quelque chose qui possède une valeur. Donc, il n'est pas vrai que seuls les objets qui ont une utilité pour les hommes aient une valeur. Autrement dit, on a l'intuition que quelque chose peut avoir une valeur indépendamment de l'utilité qu'elle a pour nous. Autrement dit, on a l'intuition d'une valeur intrinsèque. Bon, alors je ne vais pas du tout évaluer la pertinence de ce genre d'argumentation. Ça, encore une fois, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la présence du thème du dernier survivant d'une société post-apocalyptique et dans un texte central, puisque ça a joué un rôle capital dans la formation du courant d'éthique environnementale. Elle a parvenu à ce stade. Maintenant, il faut que j'arrive à connecter ça à une tradition de pensée antérieure. La tradition ici, ce n'est pas la tradition scolastique, ce n'est pas la tradition de spiritualité apocalyptique. J'étais bien content parce que j'en avais marre de travailler sur ces trucs-là. C'est la tradition littéraire. C'est là que j'ai trouvé des antécédents intéressants. Et l'antécédent le plus intéressant, je vais vous le dire, c'est du côté de Marie Shelley. Alors c'était facile au fond de se tourner de l'idée que c'est de ce côté-là que ça allait se passer, parce que l'idée d'un survivant comme ça, d'une société post-apocalyptique, c'est un topos de la littérature de science-fiction, de la littérature d'anticipation, de la littérature d'utopie. Quoi. Vous voyez, au fond, on peut même dire que qu'est-ce que c'est que la science-fiction ? C'est toujours le même thème, c'est ça qui fait que c'est un peu lassant. Quoi. C'est toujours le thème du dernier survivant. Alors là, j'avais le choix. Il y a les livres qui parlent de cela, les romans qui parlent de ça, pour ne pas parler depuis le 19e siècle, hein, et au 20e siècle, évidemment, là, c'est encore pire. Et les films, là, c'est monstrueux, tous les films qui parlent de ça. Donc, j'avais le choix, mais je crois qu'il y a un texte qui se distingue vraiment, et les historiens de littérature, généralement, sont assez d'accord avec ce jugement. C'est le livre de Marie Shelley, qui est vraiment le chef-d'œuvre du genre, Le Dernier Homme, qui est donc sorti en 1823. Non seulement c'est le chef-d'œuvre du genre, c'est-à-dire le thème du dernier survivant, mais je crois que c'est aussi le chef-d'œuvre de Marie Shelley. Qui pourtant avait, bon, c'est en folio, tout le monde connaît Frankenstein, qui est un livre qui n'est pas mauvais du tout, hein. Bon, ça a été écrit par une toute jeune femme, elle avait 22-23 ans, ce qui est déjà pas mal, hein, 22-23 ans, mais celui-là, c'est quand même autre chose, quoi. C'est très supérieur. Donc, je vais m'appuyer sur ce livre-là. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le présenter dans tout son détail, mais c'est un des derniers grands livres que j'ai lu. Personnellement, en littérature, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça. Le livre, disent les historiens, donc, se distingue par toutes sortes de traits d'un point de vue formel, du point de vue des procédés littéraires. Bon, moi, je vais prendre un point de vue malheureusement philosophique sur la question. Ce qui m'intéresse dans ce roman, la première chose que je trouve intéressante, c'est qu'elle se détache de la tradition apocalyptique sur un point intéressant, c'est que d'habitude, on met toujours en équivalence la fin du monde et la fin de l'humanité. Eh bien, pas elle. Alors que pourtant, dans le texte, à différents endroits, j'ai trouvé, à un moment, elle parle de jugement dernier, de fin du monde, etc. Mais au fond, c'est pas ça, sa perspective. Elle propose, voilà, première originalité d'un point de vue théorique, une fin de l'humanité qui est séculière, c'est-à-dire que ça ne vient pas d'un jugement dernier, c'est pas envoyé par Dieu, c'est la peste, tout simplement, c'est une maladie ravageuse qui est en train de détruire l'humanité, premièrement, et cette destruction ne concerne que l'humanité. C'est limité à l'humanité. On voit dans ce roman, donc qui est assez long hein, quand même, qui fait plus de 600 pages, on voit l'humanité disparaître, femmes, enfants, les hommes, etc. Tout le monde disparaît les uns après les autres, laissant le personnage central, pour ceux qui l'ont lu, vous en souvenez peut-être, il s'appelle Lionel Vernet, dans une situation d'isolement total, tandis que, mais vous allez voir, ça va se retourner à la fin du roman, ça c'est intéressant, tandis que la nature, de son côté, bourgeonne, rit, se pare de fleurs, de fruits et d'eau scintillante. J'ai relevé deux petits passages, je vais essayer de vous les lire quand même, ce serait dommage de ne pas lire une seule page de ce roman qui est superbe. Un petit passage, donc ça se situe vraiment au milieu du roman. Les bois verdoyants, vous voyez, il y a le contraste, hein, l'humanité en train de s'éteindre, tout le monde en train de se tordre de douleur, ravagé par la peste. Et puis de l'autre côté, les bois verdoyants agitaient leurs branches majestueuses, tandis que les mourants agonisaient sur leur feuillage, en répondant à la mélodie solennelle de la nature par des hurlements discordants. Les oiseaux colorés voletaient dans la verdure, les daims insouciants se reposaient tranquillement dans la fougère, les bœufs et les chevaux quittaient leurs étables pour aller paître sereinement dans les champs de blé, car la mort épargnait les animaux. Bon, je ne vais pas vous lire le second, peut-être c'est un peu long, j'ai peur de déborder surtout. Il y en a un autre qui est pas mal aussi, qui va exactement dans le même sens. Donc oui, l'humanité disparaît, mais la nature, elle s'en fout. Bon, alors qu'est-ce qu'elle essaye de montrer, Marie Shelley, dans ce roman ? Alors j'ai regardé un peu ce que disent les commentateurs. L'interprétation majeure consiste à dire qu'il faut proposer une interprétation psychanalytique du roman. Alors, vous connaissez l'histoire tragique, abominable de Marie Shelley, qui a perdu absolument tous les siens. Elle a perdu 3 enfants, 3 sur 3, aucun n'est resté vivant. Et puis, elle a perdu son mari, le poète Percy Shelley, qui est mort noyé. Donc, les commentateurs disent que la disparition progressive de l'humanité que met en scène le roman correspond exactement à ce qu'a vécu cette pauvre femme qui a vu tous les siens disparaître les uns après les autres. Et du coup, l'écriture de ce roman aura aidé le travail de deuil. Alors honnêtement, il y a des indices dans le roman qui justifient cette interprétation. C'est possible, c'est même probable. Mais au-delà de cette fonction cathartique, quand on regarde le texte attentivement, on s'aperçoit que le texte défend aussi un certain nombre de thèses intellectuelles, philosophiques, que le texte défend un certain nombre de valeurs. Et c'est plutôt ça que je vais retenir. Il est remarquable, par exemple, que bien que le sujet s'y prête alors là complètement, le livre fasse le choix de ne pas céder à une quelconque lamentation sur l'absurdité de l'existence et sur la cruauté de la vie. Bien au contraire, l'universelle désolation que laisse derrière elle la peste est l'occasion d'affirmer ou de réaffirmer la grandeur de l'intelligence humaine et de la civilisation, qui sont grandes en ceci que la nature, je résume à peu près les idées, ont su s'arracher à la nature pour édifier au-dessus d'elle, pour ainsi dire, par les arts et les sciences, un monde destiné à durer, qui échappe au mouvement éternel de la génération et de la corruption des êtres de nature. Donc le dernier homme est de part en part un hymne vibrant à la civilisation. Par là peut peut-être se justifier, c'est comme ça que je défendrai mon interprétation, la division en trois livres du roman, et puis le fait que le premier livre soit très long et semble, c'est ce que les historiens lui ont reproché, semble retarder le départ de l'intrigue réelle. Le départ de l'intrigue, c'est la peste, et c'est évidemment la destruction de la fin de l'humanité. On dit, en fond, ça ne sert à rien, le premier livre, c'est très très long. On les voit vivre, s'ébattre, circuler dans des milieux mondains, culturels, etc. En fond, ce n'est pas très intéressant, il faut en venir à la peste. En fond, non, ça justifie, parce que la peste n'est dramatique, et la fin de l'humanité n'est dramatique, que parce que précisément, elle va mettre un terme à cette civilisation qu'on aura vu se développer, vous voyez, dans le premier livre. C'est toute cette culture-là que la peste est en train de détruire. Et c'est pour ça qu'elle est dramatique. Il y en a un dans le roman qui fait la théorie de cela, cette théorie de la culture, qui est vraiment le penseur du livre et qui est le porte-parole de Marie Shelley et de Percy Shelley. Puisque, et je vous montrerai aussi de Mary Wollstonecraft, la mère de Marie Shelley. Ce sont les mêmes idées qu'on retrouve chez ces trois-là. Il y en a un qui est donc le penseur de tout cela et qui présente bien ses idées. Dans le roman, il s'appelle Adrian. Et Adrien dit, l'art et la littérature, on doit leur reconnaître un privilège dans la culture parce que, je cite l'expression du Adrien en question, mais enfin c'est Marie Shelley, l'imagination créatrice qui s'exprime là-dedans, dans l'art et la littérature, est capable de sublimer l'œuvre de Dieu afin d'entrer en communion avec lui. Je vous cite un petit passage d'Adrien. On a des petits laïus comme ça, il nous fait un peu la leçon. Ah, l'imagination, quelle bénédiction digne de son donateur. Elle dépouille la réalité de son masque de plomb. Elle enveloppe toute pensée, toute sensation d'un voile radieux et d'une main ô combien belle nous fait signe de quitter les mers stériles de la vie, les mers stériles, il n'y a rien quoi, les mers stériles de la vie pour nous enfoncer dans ces jardins de béatitude. Lionel Vernet, donc le dernier homme, n'oubliera jamais cette leçon-là et aux quatre coins du monde, que ce soit dans les bois de Windsor, c'est au début du roman, il contemple avec admiration les bois de Windsor. Des bois de Windsor jusqu'au lac Léman, c'est pratiquement là que se finit le roman, où, avec quelques survivants, il contemple la chaîne des Alpes, il se souviendra toujours que ce spectacle n'est beau, ce spectacle n'est grand, que parce que l'imagination créatrice est en train de sublimer. Et même au bord du précipice, il se dira, ce qui fait la grandeur de l'humanité, c'est cette capacité à sublimer le spectacle qui en lui-même est stérile et vain, que lui offre la nature. Voyez, et ce qu'il y a de dramatique, dit souvent Lionel Vernet dans La Peste, c'est que les êtres de culture qui sont capables de sublimer comme ça l'œuvre de Dieu sont en train de se replier sur la préservation de leur vie biologique. Pourquoi donc, dans de telles conditions, parfois se demande le personnage, pourquoi vouloir survivre ? Lionel Vernet se pose régulièrement la question, pourquoi pas se jeter du haut d'un précipice pour fermer à jamais les yeux sur cette triste fin du monde ? Pourquoi s'opposer à la tourmente qui balaye toute l'humanité ? Ben voilà la réponse qu'il donne. Il dit, les individus peuvent mourir, mais il est nécessaire que l'homme, lui, demeure, parce qu'avec la disparition du dernier homme, tout ce qui a de grandeur et de beauté dans le monde disparaîtrait. Je le cite, le globe avec son océan, sans rivage, et ses continents immenses se réduiraient à n'être qu'un point insignifiant dans l'immensité du tout. Fin de citation. Voilà, c'est l'esprit de l'homme, et lui seul, qui crée tout ce qui est bon et tout ce qui est grand, et le reste du monde n'est qu'une fable, c'est son mot, dont l'oubli ne coûterait rien à l'imagination ni à l'intelligence. Ouais. Supprimer le courant de pensée, au fond, qui traverse l'esprit humain, et le monde n'est plus qu'un espace vide. Faute d'un spectateur sachant sublimer le spectacle que lui offre la nature, à l'aide de l'imagination créatrice, eh ben, il n'y a tout simplement plus rien à voir, il n'y a plus rien à admirer. L'homme doit donc survivre pour que survivent la beauté et la grandeur du monde. Et c'est pourquoi Lionel Vernet, dans les toutes dernières pages du livre, décide d'achever le long périple au cours duquel il aura vu disparaître tous ses compagnons à Rome, la ville éternelle, qu'il oppose de manière significative à la nature sauvage. Or, il est remarquable sur ce point-là, une connexion que je trouvais assez intéressante à faire, il est remarquable ici que la théorie de l'imagination créatrice, la théorie de la culture, la théorie de la civilisation qui est défendue dans le livre, entre en consonance avec celle que la mère de Marie Shelley, Marie Wollstonecraft, vous devez connaître, la célèbre théoricienne du féminisme, un véritable diable en jupon dans la société de la fin du 18e, la mère donc, de Marie Shelley avait défendu une théorie qui est absolument analogue à celle-ci, dans un petit livre qui n'a pas été traduit, mais qui est vraiment intéressant, qui est son journal de voyage en Scandinavie, dont on sait que Marie Shelley l'a lu en 1814. Parmi les nombreuses remarques que fait Marie Wollstonecraft sur les paysages naturels qu'elle découvre en Scandinavie, sur les relations réciproques entre habitation des hommes et vie non humaine, il y a cette page célèbre qui, je vous montrerai, aura marqué Marie Shelley. Je vous lis la page donc de Marie Wollstonecraft. « En approchant de la frontière et par conséquent de la mer, la nature se mit à offrir un aspect de plus en plus rude, comme pour exposer, voilà la métaphore qui m'intéresse, les ossements du monde attendant d'être vêtus de tout ce qui est nécessaire pour engendrer la vie et beauté. The bones of the world, les ossements du monde. Et pourtant, ce spectacle était sublime. L'aigle a fixé son nid dans les hauteurs parmi les rochers, tandis que le vautour plane au-dessus de cette terre de désolation. Les fermes où seule la pauvreté réside sont faites de troncs d'arbres, garantissant tant bien que mal leurs habitants contre le froid et laissant la neige s'accumuler sur le toit. Rares sont ceux qui mettent le nez dehors. On n'y entend nulle clameur enfantine, on n'y voit nul enfant jouer. Le courant de vie semble pris dans le gel à sa source même. » Bon, la métaphore que je viens d'indiquer, là, « bone of the world », les ossements du monde, c'est une métaphore que Marie Wollstonecraft n'invente pas. Elle se trouve sous la plume des savants de l'Antiquité, tels que Pline l'Ancien dans l'histoire naturelle. Elle se trouve sous la plume d'auteurs plus récents que Marie Wollstonecraft a probablement lu, tels que Thomas Burnett, où elle sert à décrire la Terre à la façon d'un corps organique dont les montagnes, les rochers seraient les ossements et dont les rivières seraient les veines, le sol, la chair. Bon, c'est une métaphore qui est très connue. Bon, cette métaphore, elle a ceci d'intéressant, sous la plume de Marie Wollstonecraft, qu'elle exprime clairement la façon dont l'auteur se représente ces immenses étendues de nature sauvage, de nature vierge, qui l'entourent de toutes parts et l'enveloppent au point de lui faire éprouver le sentiment désagréable, dit-elle, d'être empastillée, c'est joli, par la nature. Ces puissantes montagnes, ces plaines alluviales, ces forêts primaires sont pour elle comme, je cite, « les matériaux bruts de la création, offerts à l'industrie, au labeur des êtres humains, pour servir les fins qu'ils poursuivent et d'abord pour fournir l'alimentation nécessaire à l'entretien de la vie, mais aussi et surtout pour libérer l'imagination, voyez, on retrouve les mêmes idées que chez sa fille, là, et lui permettre de sublimer le spectacle de la nature qui l'environne en le transformant, de telle sorte que la nature se mette à faire tableau. Nulle surprise dès lors si le lecteur voit réapparaître dans le dernier homme la métaphore des ossements du monde que Marie Shelley emprunte explicitement à sa mère puisque l'expression et même la phrase tout entière où elle apparaît est donnée entre guillemets dans le roman sans appel de notes. Je vous lis le passage. Nous remontâmes jusqu'à sa source, donc là ils sont au lac de Genève, larves grondant à travers la vallée rocheuse de Cervox, le long des grandes cascades et à l'ombre des montagnes inaccessibles. Les beaux noyers cédèrent bientôt la place aux sombres sapins, dont les branches musicales se balançaient dans le vent et dont la haute stature avait bravé mille orages. Puis, aux prairies verdoyantes, aux vallons fleuris et aux collines couvertes d'arbustes succédèrent des rochers nus et déserts perçant le ciel. Et là, c'est là que ça commence. Les ossements du monde attendant d'être vêtus de tout ce qui est nécessaire pour engendrer la vie et la beauté. Entre guillemets, ça ne met pas d'appel de notes. Marie Shelley et Marie Wollstonecraft partagent donc dans une large mesure, la même philosophie sociale, la même conception de la culture, le même rapport à la nature sauvage, la même théorie esthétique, lesquelles trouvent une formulation extraordinairement condensée dans l'expression « les ossements du monde » qu'on vient de suivre à la trace chez la mère et la fille. Bon, parvenu à ce stade, maintenant, il faut revenir au point de départ de notre enquête qui portait donc sur l'absence relative de toute thématique apocalyptique dans la littérature d'éthique environnementale, à l'exception notable, dont je disais, de l'article de Routlet, qui s'appuie sur l'hypothèse du dernier homme. Toute l'argumentation de Routlet, à l'appui de laquelle vient l'hypothèse du dernier homme, vise à invalider la prémisse sans laquelle un monde sans homme serait sans valeur. Même après la disparition du dernier homme, le monde comporte une valeur en lui-même, pour lui-même, il a une valeur intrinsèque. Aussi paradoxal que puisse paraître cette proposition, on est pourtant préparé, c'est ce qu'il dit intuitivement, à lui donner un sens, puisque la pensée du dernier homme qui dirait « après moi le déluge » nous paraît moralement scandaleuse. Si on en juge à l'étude que je viens de proposer du thème du dernier homme tel qu'il apparaît donc de façon exemplaire dans le livre de Marie Shelley, il apparaît nettement que Routelet l'a fait fonctionner à contre-emploi. Loin que la fin de l'humanité doive entraîner avec elle la disparition de tout ce qui engendre la vie et la beauté, en mettant au jour dans toute sa nudité le squelette du monde, elle est censée révéler, du point de vue de Routelet, oui, renversement, que le monde conserve vie et beauté, même s'il n'y a plus personne pour en admirer le spectacle. Toute la logique du raisonnement est ainsi littéralement retournée contre elle-même, en une torsion qui nous permet à la fois de mieux saisir les présupposés sur lesquels elle reposait, et la nouveauté du concept de valeur intrinsèque, que Routelet est le premier à élaborer dans le cadre d'une éthique environnementale. Le premier, ou presque, parce que dès lors que le contexte d'élaboration de ce concept est reconstitué hypothétiquement, alors, je dis donc que c'est le premier à le faire, mais pas tout à fait, il y a un antécédent majeur qui apparaît comme celui qui aura peut-être joué le rôle de témoin entre Marie Shelley et Richard Routelet. Je veux parler de George Moore dans Principia Ethica. Il y a encore une liaison à faire entre ces deux-là. Dans son opus Magnum, qui est publié en 1903, en une page célèbre qui ne manquera pas de faire songer à la thématique du dernier homme tel qu'on vient de l'avoir développé chez Marie Shelley, George Moore s'emploie à réfuter la proposition de Sidgwick, selon laquelle rien ne peut être dit bien en dehors du rapport à l'existence humaine, ou du moins à quelque conscience ou sentiment. À cette fin, donc, Moore demande à ses lecteurs de considérer l'exemple suivant. On a l'impression de lire une page du roman de Marie Shelley. Imaginons un monde excessivement beau. Imaginez-le aussi beau que possible. Mettez-y tout ce que sur cette terre vous admirez le plus. Les montagnes, les rivières, la mer, les arbres, les couchers de soleil, les étoiles et la lune. Imaginez que celles-ci se combinent dans les proportions les plus délicates, de sorte que rien n'est disharmonieux, mais que chaque élément contribue à accroître la beauté de l'ensemble. Et imaginez ensuite le monde le plus laid qu'il vous soit possible de concevoir. Imaginez qu'il soit un simple tas de saleté, contenant tout ce qu'il y a de plus dégoûtant pour nous, quelle qu'en soit la raison, et aussi loin que l'on puisse aller, on ne voit rien dans tout cela pour acheter ce tableau. Nous pouvons comparer ces deux mondes, et vont tout à fait dans le sens de ce que veut dire Sidgwick, et la comparaison s'applique tout à fait à ce qu'il dit. La seule chose que nous n'ayons pas le droit d'imaginer, c'est qu'un être humain ait jamais habité, ou puisse jamais habiter, l'un ou l'autre monde, puisse jamais voir et apprécier la beauté de l'un ou détester la laideur de l'autre. Eh bien, même dans ce cas, même en mettant par hypothèse ces deux mondes en dehors de toute possibilité de contemplation par les humains, est-il tout de même irrationnel d'affirmer qu'il est meilleur que le monde beau existe plutôt que celui qui est laid ? Fin de citation. Il suffit d'ajouter à cet exemple que la possibilité de toute contemplation de ces deux mondes par les êtres humains est exclue par principe, en raison d'une hypothétique disparition de l'humanité, pour retrouver les composantes essentielles de la thématique du dernier homme qu'on a reconstitué tout à l'heure. À la grande différence de l'usage que Marie Shelley en fait, cette thématique chez Moore sert à tirer la conclusion que le monde comporte une valeur intrinsèque, une beauté qui lui est propre, indépendamment de toute conscience humaine évaluatrice. Ce qui semble retenir Marie Shelley, j'arrive à la conclusion, et aussi bien Marie Wollstonecraft de le penser, que le monde est beau en lui-même, ouais, indépendamment d'un individu qu'il contemplerait, ce qui semble les retienne donc de cela, c'est l'adhésion tout à fait explicite sous la plume de l'auteur du dernier homme, l'adhésion à une conception anthropocentrique des valeurs, selon laquelle l'homme a le droit de soumettre la nature et de l'exploiter, toute chose n'ayant par rapport à lui que la valeur que peut lui conférer l'usage que lui en a. C'est ce qu'on appelle une valeur instrumentale. En vertu de cette théorie, on peut bien dire finalement que la disparition de l'humanité coïncide avec la destruction de la Terre. Vous vous souvenez, au point de départ, je vous avais dit, c'est différent. Disparition de l'humanité, destruction de la Terre, pour elle, c'est différent. Et bien finalement, ça se recoupe. Ça se recoupe parce que l'homme n'est pas un être parmi les autres, il est un être qui est, je cite Marie Shelley, le prototype de la plus belle œuvre de Dieu, le favori du Créateur, le Seigneur de la création, celui dont le nom est écrit juste au-dessous de celui des anges. Voilà, fin de citation. Il y a donc un lien intime entre l'anthropocentrisme des valeurs et puis cette forme de narcissisme métaphysique qui incline à penser que l'homme est le chef-d'œuvre de la création. L'intérêt, s'il y en a, de la lecture croisée que je viens de proposer entre Marie Shelley et Richard Routelet aura donc été de montrer à quelles conditions, non pas historiques, mais théoriques, le concept de valeur intrinsèque aura pu être élaboré en indiquant quel genre de blocage en rendait la formation impossible. Ce qui conviendrait de faire à présent, c'est de montrer que cet anthropocentrisme des valeurs est miné de l'intérieur ou qu'il entre en tension avec son contraire. Il faudrait pouvoir relire le dernier homme de Marie Shelley pour tenter de montrer que la perspective résolument anthropocentrique qui est adoptée ménage la possibilité de concevoir que l'environnement naturel revêt une valeur qui lui est propre, en accordant une attention toute particulière aux nombreux passages où le spectacle de nature est présenté pour lui-même comme étant doué d'une beauté que le regard de l'homme rehausse, en ce qu'il est capable d'en apprécier la splendeur, sans pour autant cesser d'être ce qu'il est en lui-même, dès lors que la lumière de l'esprit cesse de l'éclairer. C'est cette intuition que Lionel Vernet est fort proche d'avoir à la contemplation des Alpes glorieuses, c'est comme ça qu'il les appelle, les Alpes glorieuses, lorsque celles-ci lui apparaissent, je le cite, « drapées dans les éblouissantes robes de lumière du soleil couchant, comme si, ajoute-t-il, les beautés du monde devaient être inépuisables et survivre même à la mort du dernier homme, dont le seul privilège aura été sans doute d'être le dernier à poser son regard sur ce qu'il appelle cette magnificence divine. » Je vous remercie.
Très rapidement, je remercie Stéphane Hicham-Afeissa d'avoir posé, je crois, d'entrée l'une des deux ou trois grandes questions théoriques du champ, celle de la valeur intrinsèque des phénomènes, d'en avoir montré à la fois l'importance contemporaine, c'est une des valeurs autour desquelles ça ferraille encore, ou en tout cas, Madame Larère, je crois, présentera une sorte de voie médiane, ou en tout cas fera le partage peut-être. Non, pas du tout. Bon, alors c'est ce que j'avais cru entendre. En tout cas, c'est une question qui était encore débattue, ou qui a été débattue encore récemment, dans les années 60-70, dans des positions radicales, d'environnementalistes, etc. Et de montrer peut-être aussi à travers ça, à travers cette présence continue de quelques idées clés, une sorte d'unité conceptuelle de la pensée écologique ou de ses principales déclinaisons. Enfin, il y a une continuité, il y a des variations, il y a des déclinaisons, bien sûr, mais on reste sur des débats qui sont posés bien, dès le début du XIXe siècle, à travers le texte de Marie Shelley ou bien à travers la pensée transcendantaliste d'Emerson et Thoreau et de quelques autres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On va essayer de tenir la montre sans trop déborder. Oh, on y est. Là, on a démarré avec un quart d'heure de retard. Mais s'il y a quelques questions... Oui.
Ah oui, j'ai compris ce que tu veux dire. D'accord. Bonjour. Vous avez présenté surtout une bonne partie de vos recherches en précisant que vous étiez surtout intéressé à la littérature anglo-américaine. Peut-être qu'il faudrait, d'après ce que j'ai entendu, parler de littérature anglo-états-unienne ou anglo-nord-américaine. Et je me disais, ça pourrait être peut-être intéressant, même si effectivement, dans le cas de l'Amérique du Nord, c'est plutôt de l'écrit, de voir quelles sont les perceptions de la relation homme-nature ou la disparition de l'un ou de l'autre ou la valeur de l'un ou de l'autre dans le cadre de l'Amérique du Sud, de la cosmogonie de sud-américain qui, effectivement, plutôt par des légendes et tout un tas d'histoires orales, ont aussi une vision sur la présence éphémère ou indispensable ou complètement autre de l'humain dans des milieux. Est-ce que vous avez l'occasion d'échanger là-dessus avec des gens qui travailleraient là-dessus? Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas tout aborder.
Et non, je ne connais pas ça. Ça m'intéresserait vivement. Je suis en recherche justement de références, mais non, je ne connais pas du tout ces choses-là. Là, je travaille vraiment dans une sphère culturelle européenne, quoi, ça j'avoue. Non, je ne connais pas ces choses-là, mais ça m'intéresse. Tout ce qui parle de la fin du monde et de l'humanité. Mais il faut que ce soit élaboré d'un point de vue théorique. J'ai besoin de concepts, ou au moins de métaphores, pour pouvoir établir mon petit système d'analogie discursive, parce que c'est ça qui m'intéresse. Comment un discours se construit? Sur la base de quoi? Avec quel genre d'éléments? Donc il faut qu'il y ait un minimum d'élaboration théorique, sinon je risque de ne pas en avoir un grand usage. Mais je vous remercie de cette référence, j'essaierai d'y regarder.
Bonjour, merci, c'était vraiment, vraiment très intéressant. J'ai juste une remarque sur l'hypothèse finale qui a été posée, qui était, au moment où vous soulignez que finalement à l'intérieur du roman, il y avait peut-être quelque chose était miné dans le discours, et vous insistez sur le spectacle de la nature qui est montré pour lui-même. Oui. Et en fait, cette histoire du montrer pour de la nature montrée pour elle-même, je trouve difficile à tenir dans la mesure où c'est.
Pourtant, c'est déjà. Si vous regardez bien le roman, je ne sais pas, vous l'avez lu, peut-être.
Non, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est toujours un paysage reconstruit par un regard. Du coup, ce n'est pas la nature pour elle-même.
Mais à la fin du roman, on envoie Lionel Vernet contempler ce genre de choses en se disant, finalement, même après moi, ça restera beau. Ce qui est tout à fait contradictoire, ce qu'il n'a pas arrêté de dire, c'est vraiment la théorie d'Adrienne au début qui reprend à son compte que ce spectacle n'est beau, vous connaissez la phrase « Beauty is in the eye of the beholder », c'est ça sa théorie, la nature n'est belle que parce qu'elle se reflète dans un regard humain, et à la fin il en vient de se dire « mais au fond, avec ou sans moi, ça restera beau ». Alors c'est très étrange, ce discours n'est pas assumé, je trouve qu'on en trouve quelques traces.
Ça restera beau, donc selon son cadre de reconstruction d'une beauté
Non, parce que même après lui, après sa mort, en l'absence de spectateur, ça reste beau. Quand il dit c'est une beauté inépuisable, voyez, ça peut pas être épuisé, ça peut pas être épuisé même au regard d'une conscience humaine. C'est étrange, quoi, ces éléments-là.
J'ai pas lu le roman, donc je le lirai.
Là, ça me fait penser tout de suite, mais je parle sous réserve de mes amis Larère, à la conférence qu'on a eue lors de la journée d'études sur l'animal, où on a eu une conférence de Monsieur Bailly qui a parlé du versant animal, et au début de son livre. Il parle de l'animal, c'est très très intéressant, parce que c'est la première fois que cette idée semble évidente, que l'animal existe sans nous. C'est-à-dire que l'animal, la nature, nous la fabriquons. Et dans son texte, dans sa démarche, il montre en fait que l'animal peut exister complètement sans nous. Et qu'est-ce qu'il est sans nous? Mais il est l'animal. La nature sans nous est la nature. Et c'est un choc total quand on se rend compte de ça. Donc là, vraiment, c'est un choc d'abord émotionnel, parce qu'il parlait d'un animal, je ne sais pas ce qui était là, et cet animal était reconstitué ici, on le voyait, et en même temps, dans son livre, il nous démontre, en effet, et je ne sais pas pourquoi ça a été ce choc, moi j'ai ressenti ce choc, que la nature existe sans nous. Comment l'appréhender, ça?
À la façon dont un chat, par exemple, est indépendant, quoi, se moque de nous, c'est ça? Je sais pas.
C'est pas ça du tout, c'est qu'en fait, l'animal, on peut en parler quand on le voit, mais quand il n'est pas en relation avec l'humain, il est quoi? Qu'est-ce qu'on en sait? La nature, c'est la même chose. Quand on a cette notion de paysage très importante, c'est vrai ce que vous dites. En même temps, quand on n'est pas dans la nature, qu'est-ce qu'elle est la nature? Elle est la nature. Enfin, moi, c'est une question, peut-être, je ne sais pas si Catherine pourrait en parler, mais ça c'est quelque chose... Mais tu sais, moi, voilà, exactement, mais... Voilà, on se pose toujours cette question-là. Qu'est-ce qui existe en dehors de nous?
Y a-t-il encore une lumière dans le frigo quand on a refermé le frigo?
Voilà, exactement. Non, mais c'est la limite pour caricaturer peut-être ma question un petit peu naïve. Merci beaucoup. Et je pensais aussi, parce que si vous parliez d'un roman, en vous écoutant, vous parliez d'un roman du XXe siècle, qu'auriez-vous fait si vous aviez dû étudier McCarthy sur la route?
Ah oui, je l'ai lu.
C'est extraordinaire.
Oui, c'est un
donc là, vous avez trouvé aussi des références.
Oui. Oh, c'est monstrueux. J'en ai lu une cinquantaine. Et puis c'est quand même, c'est sinistre de travailler sur ces questions-là.
Sans doute.
La fin du monde du matin, on ne peut plus. Le moment de... On allume la télévision, encore une catastrophe. On peut parler d'autre chose. Hein. C'est fatigant à la fin. Du coup, je me suis arrêté avec ça. J'en tiens un bon, là. On peut travailler avec ça.
D'accord. Alors, y a-t-il d'autres questions?
On aura la possibilité de dire enfin...
Merci. Monsieur Larère, si vous voulez bien prendre place. Il n'y a pas de vidéo, de PowerPoint ou...
Non, alors justement, je vais devoir faire appel à l'imagination créatrice de l'assistance, puisque j'ai parlé de choses qui... visibles normalement et qui sont faites pour être vues, mais bon, non, j'ai pas réussi. C'est quoi? Je vais voir ce que c'est.
Donc on passe cette fois de plein pied dans le XXe siècle, dans la culture contemporaine, grâce à cette intervention sur le land art ou les déclinaisons du land art.
Dans un bois près de Bar-le-Duc, la promenade est jalonnée de stèles. Elles invitent le marcheur à les suivre. Puis, on quitte le chemin pour accéder à la dernière d'entre elles, qui porte l'inscription « Au fond de la forêt ». Cette œuvre, sorte d'itinéraire initiatique, Gloria Friedman l'a intitulée « Hommage au beau naturel ». Si l'on veut aimer la nature, si l'on désire en appréhender la beauté, il faut aller au fond des bois. Voilà ce qui m'a semblé être le message du Land Art. Mais avant d'en reparler, je vais faire une sorte de le mettre en perspective historique. Dans les enluminures médiévales, vergers, campagnes et forêts, décors d'histoires saintes ou de scènes de chasse étaient juste évoqués par leurs attributs stylisés. Arbres, fleurs, gibiers ou bêtes fauves étaient disposés selon une perspective ascendante. Il a fallu que l'œil du Quattrocento ajoute une vision géométrique adopte une vision géométrique de l'espace pour que la peinture représente des paysages. Construction perspective en point de fuite unique place l'observateur hors de la nature qu'il contemple. Le paysage est un espace vu d'un lieu, plus exactement même d'un point. En ce sens, la peinture paysagère, solidaire de l'entreprise de rationalisation du monde, répond à la séparation qu'établit la modernité entre l'homme et la nature, entre le sujet et l'objet. Mais, ce faisant, elle exalte une relation esthétique au spectacle de la nature. Ainsi, l'invention moderne du paysage s'inscrit en contrepoint d'une modernité qui prétend arracher l'homme de la nature. Et tout en anticipant la modernité, l'art paysager a nié le désenchantement du monde. Depuis la Renaissance, l'esthétisation de la nature s'est ainsi focalisée sur l'expérience paysagère, celle d'une nature contemplée de loin, comme un spectacle, comme un tableau. La peinture paysagère a joué donc un rôle crucial dans la transfiguration des pays en paysage. Mais cet art prétendait imiter la nature, mais la nature, en fait, a été vue avec les yeux de l'art. Comme l'a écrit Bert Callicott, la nature comme la lune, lui d'une lumière empruntée. Si l'art reflète les goûts et les représentations du contexte social dans lequel il s'inscrit, je parlais de l'œil du Quattrocento, il lui advient ainsi de les anticiper. L'invention de la perspective précède la révolution scientifique galiléenne et la conception moderne de l'extériorité de l'humanité et de la nature. Or, certaines propositions de l'art contemporain invitent à se déprendre de l'expérience paysagère comme unique rapport esthétique à l'environnement naturel et à considérer l'homme comme faisant partie, intégré dans la nature. Je m'en tiendrai à ce que l'on qualifie de land art, c'est-à-dire à des œuvres qui se font in situ, conçues et installées dans des paysages sauvages, en pleine campagne, voire même dans des friches industrielles. Le mouvement prend sa source aux États-Unis, vers la fin des années 60, avec les réalisations qui, avant d'être rassemblées sous la qualification de land art, étaient qualifiées par leurs promoteurs d'Earth Art, et parfois même d'Earth Works. Ces artistes entendaient contester le dispositif culturel de production, d'exposition et de marchandisation de l'art. Pour cela, il leur fallait sortir des ateliers, sortir des musées et des galeries. D'où l'idée de produire des œuvres in situ. D'ailleurs, ils les appelaient aussi des œuvres outdoor à une époque. Nombre d'artistes désiraient aussi se libérer de l'expressionnisme abstrait et du dogmatisme auquel était parvenue la critique. L'Earth Art est issu de cette réaction, comme l'art minimal que la plupart de ses promoteurs ont côtoyé. Ces artistes pouvaient d'ailleurs se réclamer d'une ancienne tradition. Depuis des siècles, les sculpteurs avaient, sur commande bien sûr, installé leurs œuvres pour décorer les beaux quartiers des villes, les palais et les jardins. Ça n'était certes pas en pleine nature, mais tout de même in situ. Et puis, il y avait eu des sculpteurs qui avaient installé des œuvres in situ. Je pense par exemple à Henri Moore. et puis Aniki de Saint-Phalle et Tingeli avec le jardin des tarots. Il n'est d'ailleurs peut-être pas indifférent que parmi les pionniers de l'Earth Art, Robert Simpson et Richard Serra étaient déjà connus comme sculpteurs. Des sculpteurs qui auraient trouvé, dans les grands espaces américains, la possibilité de faire des œuvres à la mesure de leurs ambitions. Ont émergé alors, un peu plus tard, au début des années 70, hein, ça c'est dans le courant des années 60, le début, des œuvres beaucoup plus discrètes. C'est l'ensemble de ces ouvrages, humbles ou imposants, que l'on conviendra, encore un peu plus tard, hein, c'est à la fin des années 70, d'appeler le Land Art. Très vite, la question s'est posée de savoir si le site n'est qu'un nouveau dispositif culturel destiné à remplacer celui des galeries et des musées, ou s'il impose de construire des œuvres qui soient en accord avec lui. Autrement dit, si c'est l'œuvre qui crée le lieu, ou si elle lui doit tout. On doit ainsi distinguer deux attitudes, avec bien entendu des figures intermédiaires et des passeurs de frontières entre le discret et le monumental. Je maintiendrai pour la première le terme originel d'Earth Art. Elle est essentiellement, mais pas exclusivement, américaine. Elle œuvre sur la nature, plus que dans la nature. Les éléments naturels, le paysage lui-même, ne sont que les matériaux de l'œuvre projetée. La nature est instrumentalisée pour faire de l'art. L'un des promoteurs, Michael Heiser, n'a pas hésité à affirmer que le travail n'est pas installé dans un lieu, il est le lieu. Plus spécifiquement, mais pas exclusivement non plus européenne, l'autre attitude revient à travailler dans la nature, et souvent avec elle. C'est ainsi que Nils Sudo a pour projet de rassembler les possibilités spécifiques d'un paysage à une saison donnée, et ceci pour éveiller, je le cite, « ce qui d'une manière latente existe dans cette nature ». Par respect du site, ces artistes cherchent à minimiser leur intervention avec les œuvres discrètes et éphémères. Ils ne créent pas le lieu, ils s'inspirent de lui et le mettent en valeur. C'est à cette seconde tendance que je réserverai maintenant la qualification de Land Art. Alors, je vais parler d'abord de la modernité et du caractère industriel de l'Earth Art. L'Earth Art est fait de réalisations spectaculaires dans les vastes espaces qui sont à leur échelle. Conviennent à ses œuvres prométhéennes les déserts du Nevada et du Nouveau-Mexique. Ce sont des constructions colossales, d'architecture pure, c'est-à-dire non fonctionnelle, faites de rocs, de terre, de boue, d'asphalte, de béton, à grand renfort de bulldozers et de pelleteuses. Michael Heiser, j'ai dit, l'un des plus brillants représentants de l'Earth Art, proclame ainsi qu'il travaille dans le bâtiment. Et Gilles Tiborghien remarque que le terme associé d'Earthworks appartient à l'origine au génie militaire. Au pire, le paysage est traité comme une page blanche à l'échelle de l'œuvre projetée. Au mieux, l'artiste utilise le paysage comme composante d'une architecture qui le met en valeur. L'Earth Art relève ainsi d'une conception radicalement moderne de la nature. Il témoigne conjointement d'une acception industrialiste de l'art. Il n'est guère surprenant, d'ailleurs, que les pionniers de cette conception de l'art in situ soient des artistes américains. Les zones désertiques sont disponibles à l'ouest des États-Unis. Cela facilite l'appropriation de sites assez vastes pour leur construction artistique. Ces lieux ne sont pas, comme l'a remarqué Anne Volvé, sans rapport avec la mythologie de la conquête et l'épopée des pionniers. Il y a enfin aux États-Unis une tradition, un goût profond du monumental que l'on retrouve aussi bien dans l'architecture, hein, les gratte-ciels, que dans ce qui fut peut-être la première sculpture d'Earth Art in situ, des bustes gigantesques des quatre présidents que réalisa Gudson Borglam, voilà, il a un nom que j'ai toujours du mal à prononcer, à même les falaises du mont Rushmore. Je ne sais pas si vous avez eu des photos de ces horribles... Quoi ? On l'a vu dans Hitchcock, voilà. Hein, Mais il faut nuancer selon les artistes et parfois pour le même artiste, selon les époques ou les occasions. Le désert est instrumentalisé pour mettre en valeur les grands travaux de Heiser dans le Nevada, que ce soit double négative ou complex one. Ah, imaginez, double négatif, ce que ça peut être. Complex one, c'est une sorte de très profonde crevasse en zigzag. Ce sont ces constructions qui font paysage. La foudre et les caprices du climat sont par contre indispensables à la scénographie de Lightning Field de Walter de Maria. Bien qu'il ait affirmé que le vieux paysage du naturalisme et du réalisme a été remplacé par le nouveau paysage de l'abstraction et de l'artifice, Robert Simpson, avec sa jetée en spirale, met en valeur la beauté du Grand Lac Salé. Avec leurs emballages de falaises, leurs processions d'ombrelles, leurs collerettes disposées autour des îles, avec les 40 km de toile blanche qu'ils firent courir sur les collines au nord de San Francisco, Christo et Jeanne-Claude ont créé des paysages éphémères qui, tout en ayant l'allure d'un gigantesque opéra romantique, relèvent les lignes de force du pays qu'ils transfigurent en le drapant. Enfin, s'il partagea le goût de ses collègues pour les paysages grandioses et les aridités de l'Ouest, le désert est moins de l'ordre de la nature que du concept, a-t-il écrit. Robert Simpson ne s'est jamais dépris de sa passion pour la violence des paysages bouleversés par l'affrontement entre l'homme et la nature, projetant même, avant sa mort, de réhabiliter par l'art les paysages dévastés des ruines industrielles. Mais au-delà de ces nuances, demeure le caractère spectaculaire et théâtral de ses œuvres. Monumentales, plus imposées au paysage qu'elles ne s'y inscrivent, ces constructions, bien qu'in situ, et bien qu'il leur advienne d'exalter le site, nous reconduisent toujours à l'art et aux intentions souvent complaisamment décrites et commentées de leurs auteurs, par leurs auteurs aussi. Maintenant, j'ai parlé des bricolages discrets du land art. Respectueux de la nature, le land art est à l'inverse composé d'œuvres éphémères, réalisées avec la plus grande économie de moyens. Parfois, l'artiste trimballe avec lui quelques objets rituels qu'il dispose dans la nature. Robert Simpson lui-même, c'est là que je dis qu'il peut y avoir des passeurs de frontières, Robert Simpson lui-même photographie les péripéties d'un voyage de miroir dans le Yucatan. Ce n'est pas la même inspiration que Marisha Burkhardt installe dans des sites sauvages et sur des troncs d'arbres de préférence calcinés de petites coupelles en plastique brillant. Plus fréquemment, le land artist fabrique ses œuvres avec les moyens du bord, des pierres et des cailloux, des brindilles, des fleurs coupées, des troncs d'arbres, de la boue. C'est ainsi qu'Andy Goldsworthy produit des œuvres raffinées avec ce que la nature offre de plus immédiate, selon lui. Délicates spirales de feuilles mortes sur une mare, sorte de contrepoint à la spirale jetty de Simpson dans le Grand Lac Salé, sculptures de neige et de glace, assemblages géométriques de fleurs et de brindilles, sentiers de murs en pierre sèche ou en terre. Nils Sudo bricole de la même façon. Il ourle une plaque de glace d'une frange de fougère brune, lâche sur une mare, bateau frêle comme des papillons de mai, quelques feuilles de châtaignier chargées de campanules. Dans les marais de la Floride, Michael Singer, avec des lianes, des bambous et des roseaux, fabrique des constructions aériennes qui se reflètent dans les eaux. Nous ne sommes plus dans l'industrie, ni dans la construction, mais dans le bricolage. Nous ne sommes plus dans le fer, mais dans le faire avec. Ces œuvres fragiles et périssables tentent de révéler la richesse cachée d'endroits apparemment très humbles. Grâce à elles, Goldsworthy dit qu'il entend faire comprendre l'environnement naturel et dit montrer ce qui est déjà là. Le minimalisme de l'intervention peut d'ailleurs aller jusqu'à faire de la marche l'œuvre d'art elle-même. Après l'avoir passionnément pratiqué, du paysage anglais aux plus sauvages contrées d'Écosse, Richard Long parcourt ainsi le monde. L'une de ses premières œuvres, une ligne de fuite en marchant, fut de photographier la trace de ses pas dans l'herbe d'une prairie. Nouveau promeneur solitaire, Richard Long pond cultus et randonnées de construction qu'il réalise avec les pierres et les cailloux qu'il rencontre sur son chemin. Photographié avec modestie, ces sortes de cahirs nos motifs géométriques sont les témoignages discrets de ses marches. Et ce sont les marches qui sont pour lui l'expérience artistique authentique. S'inspirant explicitement de Richard Long, Sandra Ray pratique elle aussi la marche comme une expérience artistique. Mais au lieu de diffuser, comme Richard Long, des photographies simples et réalistes des traces de ses déambulations, elle ne cesse de photographier en numérique des fragments de paysages qu'elle rencontre. Elle les archive dans son ordinateur et dispose ainsi aujourd'hui d'environ 12 000 photos prises dans différents lieux, dans la nature ou dans des zones urbaines, au Brésil, en France et en Espagne. Dans ce corpus, elle choisit pour chaque trajet un petit nombre de photographies sur lesquelles elle va expérimenter des transformations qui opéreront la mutation des données captées en images oniriques. Et on a effectivement avec... Alors, des logiciels lui permettent, par exemple, de répéter indéfiniment des opérations de superposition, de juxtaposition de différentes photos et d'inclusion de photos dans d'autres photos. Ça donne un résultat assez surprenant, difficile à décrire. Quand le résultat lui plaît, elle le met dans la série de ses dépliements du paysage. Il me reste combien de temps là? Combien? Une dizaine? Ah, ben ça va. Non, je n'avais pas repéré au début. Alors, il y a aussi. Pouvons-nous instaurer. Parler du land art militant. Pouvons-nous instaurer des rapports plus harmonieux et plus créatifs avec la nature? Au lieu de présupposer une dualité entre culture et nature, pouvons-nous les envisager dans une espèce de continuité, comme les éléments d'un système où nous jouons un rôle important sans être les seuls acteurs? Pouvons-nous juguler une culture de la domination et de l'excès pour laisser s'épanouir une culture de coopération et de responsabilité? Fin de citation. Telles sont les questions que le Land Art suggère à John Beardsley. Si sa motivation est principalement esthétique, le land art témoignerait ainsi d'une aspiration à inscrire l'humanité dans une nature avec laquelle les sociétés humaines ont coévolué, entrant ainsi en résonance avec une conception écologique nouvelle du monde. Aussi, le militantisme en vient-il parfois à mettre l'art à son service. Ce fut le cas de Joseph Bué. Bué ou Bueys, je ne sais pas comment on peut prononcer, c'est un Danois. Hein? Bueys, oui. L'homme qui s'immergea tout habillé et chapeauté dans un marécage en bordure du Zuiderzee. Il fit photographier la Seine pour protester contre l'assainissement des marais néerlandais. Hans Hacke disposa dans un dessin semblable une collection d'ordures récoltées sur une plage espagnole. Militant pour le respect de la nature depuis qu'il prétend l'avoir vu mourir en Allemagne, Nils Udo réalise avec des arbres morts des œuvres qui ne sont pas sans évoquer les grands totems de Franz Kraschberg, que Franz Kraschberg sculpture avec les arbres calcinés de la forêt amazonienne pour dénoncer les ravages du front pionnier, aussi bien sur les hauts lieux de la diversité biologique que sur la vie des autochtones. Le même environnementaliste militant conduit Agnès Denis à transformer une décharge de Manhattan en champ de blé. Entre Vénétie et Trentin, dans une vallée près de Borgo Valsugano, se tient une exposition permanente de land art. Peu enthousiaste au début vis-à-vis de cette expérience, parfois même vaguement hostile à elle, les autochtones ont adopté des activités d'art tessella. Certains participent bénévolement à l'organisation des expositions, d'autres les financent. La municipalité anime un foyer de créativité rurale auquel les artistes sont invités et où les enfants jouent volontiers au land art. Les initiateurs d'art tessella semble ainsi avoir trouvé un langage commun entre les habitants du Val d'Ossella et les artistes. Avec un certain penchant pour l'ecologically correctness, ils demandent à ceux-ci de tirer par leur inspiration de la beauté des lieux, et ce faisant, de contribuer à un manifeste en faveur du respect de la nature. On expose ainsi dans la vallée des œuvres périssables, alors de Nils Sudo, de Gorsworthy, enfin, et puis de gens beaucoup moins connus. On expose ainsi dans la vallée des œuvres périssables, composées avec ce qu'il y a de plus humble et à portée de la main. Puis on les abandonne à leur corrosion naturelle. Cependant, la réussite est telle que l'expérience semble tourner au festival. Artesella organise en outre, depuis quelques années, des expositions, des concerts, des journées littéraires et des journées poétiques. Qu'il milite pour la protection de la nature ou se contente de la respecter, les adeptes du Land Art n'ont pas manqué de critiquer l'Earth Art des grands espaces américains. Dor Ashton accuse ainsi Heiser d'aller dans le désert originel pour y laisser des monuments de sa virilité. Richard Lang a qualifié Robert Simpson d'urban cowboy et Robert Serra de Rambo de l'art. Pourtant, au-delà de ce qui les oppose, ces œuvres in situ ont quelques points communs. Durables ou éphémères, elles sont d'abord soumises aux caprices de la lumière et du climat. Parfois, comme dans Lightning Field, dont la forêt de paratonnerre attire la foudre, cette variation climatique fait partie même du projet artistique. Ensuite, toutes ces constructions sont reprises par des processus naturels. Les architectures monumentales de l'Earth Art s'érodent, la spirale de Simpson a été engloutie par les eaux, les œuvres éphémères du Land Art sont dispersées par le vent ou la pluie, elles fanent, se dessèchent ou pourrissent. L'érosion et la corruption font d'ailleurs partie du projet artistique, puisque, comme l'a dit Richard Lang, il faut laisser la nature décider de l'œuvre. Enfin, ces œuvres ont toutes besoin de témoignages. Les constructions de l'Earth Art sont en général difficiles d'accès. Les draperies de cristaux sont au bout de quelque temps démontées. Ceux qui peuvent admirer ces œuvres in situ ne sont pas bien nombreux, et c'est sans doute ce qui en fait le prix. Mais pour qu'elles soient connues, reconnues et promues, il faut passer par la médiation de la photographie, du film vidéo, du dessin et de tout un discours d'accompagnement, parfois poétique, et l'associe parfois à ses cuistres et prétentieux. Ces médias sont diffusés et vendus. Ils permettent de rembourser les frais considérables de l'opération, dans le cas de l'Earth Art en tout cas. C'est que les œuvres de l'Earth Art, outre qu'elles utilisent des moyens des travaux publics, exigent d'obtenir la reconnaissance formelle d'un droit, propriété ou usufruit, à faire un usage artistique du lieu. Si ceux qui interviennent dans des zones désertiques n'éprouvent pas trop de difficultés dès lors qu'ils ont des commandes publiques ou privées, des artistes comme Christo et Jeanne-Claude interviennent dans des espaces urbains, ruraux ou touristiques, où les enjeux fonciers sont autrement plus importants. Leur réalisation dépend d'un important effort de mobilisation, de négociation avec des propriétaires privés, des administrations, et l'issue dépend parfois de procédures judiciaires. Déserter les galeries et les musées n'a donc pas libéré ces artistes du marché. Ne pouvant vendre l'œuvre, ils en diffusent des reproductions, mais la photographie, tout en représentant l'ouvrage, l'appauvrit. L'un d'eux en est parfaitement conscient. Une fois fixé sur la photo, l'œuvre a conservé sa forme mais perdu les autres paramètres qui ont justifié la présence in situ. Avec les œuvres périssables du Land Art, parfois avec des événements si évanescents que seul l'artiste a pu en être témoin, le problème est que l'art paraisse, et que le geste artistique soit visible et qu'il en demeure une trace. Là aussi, la photographie est indispensable, accompagnée ou non de cartes et de textes. Mais comment faire aimer l'éphémère en le fixant? Comment initier au mouvement en le figeant sur un instantané? Surtout quand on affiche le plus grand mépris pour la cuisine photographique. et que l'on se satisfait de prendre des clichés réalistes comme Richard Lang. Comment transmettre l'expérience d'une marche comme œuvre d'art sur une simple photo? Comment le cliché pourrait-il rendre toutes les sensations que produit n'importe quelle marche et qui fait que toute marche est singulière? La randonnée, c'est certes la découverte de paysages ou de scènes fugitives, c'est aussi la chaleur du soleil et la fraîcheur du soir, la pluie fine ou le vent, les chants d'oiseaux, le bourdonnement des insectes, l'odeur des fleurs et de la terre, la fatigue qui vient et l'eau qui étanche la soif. Je vais passer à la conclusion. Retour au beau naturel. Découvrir ce qui est déjà là dans la nature, comme le disait Goldsworthy, telle est la leçon du Landart. Telle est aussi celle de Gilles Clément. Voulant nous initier à la beauté des friches, ces jardins nous invitent à observer, en vagabondant sur les chemins, dans les campagnes ou dans les friches périurbaines, le vagabondage des plantes, l'errance des insectes. On voudrait savoir marcher comme Richard Lang, dressant à l'occasion des caïnes comme lui. On aimerait perdre son temps immergé dans un paysage à composer pour soi des assemblages aussi délicats que ceux de Goldsworthy. Toute la difficulté que ces artistes rencontrent est d'inviter à partager leur expérience et leur amour de la nature dans ce qu'elle a de banal et d'évanescent. La nature, depuis des siècles, est vue avec les yeux de l'art. Mais l'artiste qui veut initier à son respect, comme à sa beauté propre, doit faire en sorte que son artifice s'efface. Son art doit être visible, mais pas trop, et d'autant plus visible qu'il est moins évident, qu'il est plus naturel. Simple artifice de mise en scène, cet art est fait pour s'estomper. Il n'invite plus à contempler le respect de la le spectacle de la nature, mais à y pénétrer, à y participer. Pour y parvenir, il faut justement découvrir ce dont ne témoignent pas les photographies des œuvres du Landart, l'expérience d'une immersion dans un environnement naturel que l'on met à distance en mobilisant toutes ses facultés de perception, tant pour s'y situer que pour parvenir à l'émouvante découverte de ce qui est déjà là. Se situer dans la nature, ce n'est pas seulement interpréter et apprécier les paysages qu'elle offre à nos regards. D'autres sens sont conviés. On peut aussi bien percevoir le bourdonnement des insectes, les hurlements du vent et le chant des oiseaux comme des compositions musicales, ou assimiler l'odeur des foins coupés, celle des fleurs le long des routes ou des champignons du sous-bois comme des poèmes olfactifs. Situation d'Aldo Léopold. C'est là que le Land Art entre en consonance avec la Land esthétique qu'Aldo Léopold a dispersée dans l'almanach d'un comté des sables, cet almanach où il expose sa Land esthétique. Mais pour Aldo Léopold, le goût raffiné des choses naturelles n'est pas l'apanage des esthètes. On peut aussi bien découvrir la beauté naturelle par le savoir. Si les plaines du Kansas lui parurent esthétiquement fascinantes, ce n'est pas par les vues pittoresques ou sublimes qu'elles pouvaient lui offrir, mais parce qu'il savait de leur histoire. Mettant le paysage en perspective historique, il pouvait imaginer ce qu'avaient été ces mornes plaines tant qu'on avait pu les voir, tels qu'on avait pu les voir jadis, sous le ventre des bisons. De la même façon, ornithologues et entomologistes découpent dans tout paysage des scènes fugitives et saisissantes. Sans elles, le pays à leurs yeux serait inanimé. Comment enfin Gilles Clément aurait-il saisi, sans s'en savoir voir de botaniste et d'écologue, d'éphémères jardins dans la friche la plus banale? Mais on peut enfin saisir la beauté naturelle par esthétisation des arts de faire. Chasse, pêche, cueillette, ces pratiques supposent certes une interprétation intentionnelle, utilitariste, de l'environnement naturel, mais elles mobilisent tous les sens, apprennent à observer, écouter, sentir, pressentir. Lorsque le savoir-faire est grand, on a tout loisir de se laisser charmer. Pour peu que l'on y trouve enfin la gratuité qui caractérise l'amour de l'art, et que l'on soit capable de revenir heureux de ses escapades, même quand on en revient bredouille, chasse, cueillette et pêche vont accéder au beau naturel, aussi bien que l'herborisation, la promenade ou la contemplation. L'esthétique de la nature ne relève plus seulement de l'art, mais aussi du savoir et des savoir-faire. le plus émouvant dans les fragiles compositions du Land Art, c'est que nous invitant au beau naturel, elle nous invite à nous passer d'elle, à découvrir, immergés mais actifs dans les friches, le long des fleuves ou bien au fond des bois, une nature qui brille de ses propres clartés.
Merci Raphaël Harrer pour cet exposé riche. Et alors on regrette bien sûr l'absence d'images, mais on les imagine. Puis parmi les œuvres que vous avez citées, il y en a quand même qui sont bon, connues,
qui sont assez connues,
dont on a quand même un petit peu l'idée de ce qu'elles sont. C'était l'éphémère. Je retiens juste avant de lancer peut-être la balle à l'assistance. Sur la conclusion, cette double idée, c'est-à-dire qu'il y a au fond une communauté, indépendamment des différences de formes qui sont radicales, qui sont énormes, entre les créations monumentales et puis les productions éphémères, alors que l'une s'impose, l'autre s'efface spontanément. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez montré sur la fin qu'en fait elles partagent un destin commun, puisque l'érosion travaille, même si l'échelle temporelle est pas la même. Donc il y aurait quelque chose dans ce rapport au temps, in fine, qui est le commun.
Qui est quelque chose qu'a bien vu Michael Heiser, d'ailleurs, parce qu'il a... Alors je me souviens plus du tout du titre de son œuvre, mais il a fait faire par une pelleteuse dans un lac qui a été... Enfin, dans un fond de lac qui était à sec, il a fait faire une sorte de tranchée en zigzag, et il a photographié régulièrement tous les 15 jours, tous les mois, pour bien montrer l'érosion, jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien.
Qu'elle se soit effacée.
Donc c'était pour bien montrer que quand même, il y avait chez lui une idée de ce que la nature pouvait faire des œuvres qu'il lui imposait.
Et donc des œuvres qui travaillent a priori sur l'espace travaillent en réalité aussi sur la temporalité. Et la deuxième conclusion, enfin ce qui m'a frappé un petit peu l'oreille, c'est ce qu'on pourrait appeler les propositions utopiques ponctuelles en fait que constituent les œuvres du Land Art. Il n'y a pas de système, c'est pas un système de substitution complet. Il y a des œuvres militantes, mais enfin c'est peut-être quand même pas la grande majorité. Par contre, chacune est une proposition à habiter, à sortir, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, aller voir par soi-même pour que l'expérience soit en fait transférée, en quelque sorte, l'expérience du dehors transférée à celui qui, sinon, effectivement, est tenu de la vivre par procuration de l'image ou de l'archive. Est-ce qu'on a quelques questions rapides pour essayer de ne pas trop déborder encore une fois, mais... Alors, je vous remercie encore pour cette conférence. Et nous pouvons en venir à la troisième, Madame Catherine Larrère, qui va déplacer le curseur cette fois vers les questions plus philosophiques. Alors, on écornera peut-être un tout petit peu la pause café. je pense qu'on peut... On a un petit quart d'heure de retard, déjà. Bon, c'est pas excessif, mais voilà, une demi-heure. Si ça peut tenir dans une demi-heure, c'est impeccable.
On pourra tenir dans une demi-heure.
Voilà, parfait. Et alors, si Gilles Clément n'est pas arrivé, peut-être que Denis, à ce moment-là, tu prendras tout de suite la parole. Après la pause. Donc, Catherine Larrère va nous parler d'écologie à la première personne. Ce que j'avais compris, moi, comme une forme de voix raisonnable d'écologie, non pas brutale, violente mais au contraire une sorte d'approche raisonnée de l'articulation homme-nature. Bon, Catherine Larère est professeure à Paris 1. Elle a écrit de nombreux ouvrages de philosophie politique, de philosophie morale sur les questions environnementales. Parmi ces ouvrages, nous pouvons mentionner l'invention de l'économie du droit naturel à la physiocratie en 92, ou un petit ouvrage sur les philosophies de l'environnement, justement, au PUF, et en collaboration avec Raphaël Larère récemment, du bon usage de la nature aux éditions Flammarion.
Oui. Quelque chose, excusez-moi, les livres ne sont pas encore exposés parce que je n'ai pas pu, j'étais malade. Donc j'en ai quelques-uns ici, d'autres dans mon bureau. Par contre, la libraire va venir. Bon. La librairie de l'aventure va venir avec des ouvrages des intervenants.
Il y aura donc une table libraire finalement. C'est une bonne nouvelle. Merci Anne. Nous vous écoutons.
Bien, merci beaucoup. Merci de cette invitation et d'avoir organisé cette journée. Donc, oui, je précise un peu ma position. Bon, d'abord, l'expression d'écologie à la première personne, je l'emprunte aux philosophes des sciences, de la physique, mais aussi phénoménologue, qui est Michel Bidbol, et qui avait introduit cette expression pour opposer, d'une part, ce qu'il appelait une écologie à la troisième personne, à visée objective ou objectiviste, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit morale. On peut dire que les éthiques de la valeur intrinsèque sont justement une visée objectiviste. Et à cette écologie de la troisième personne, donc Michel Bidbol nous invitait, c'était un thème de colloque, hein, invitait à distinguer ou à opposer une écologie à la première personne, qui situe un sujet dans son environnement, sans pour autant qu'il s'y trouve nécessairement au centre de cet environnement. Et ce que je voulais, l'idée que j'avais voulu apporter, c'est que ces deux écologies n'étaient pas forcément à opposer, justement, c'est pour ça que je les ai distinguées plutôt qu'opposées, en ce sens que si on prend le courant de nature writing, de ces écrits de nature qui ont été, dont la tradition anglophone et particulièrement en Amérique du Nord a été beaucoup étudiée, et d'où le titre d'Imagination environnementale, qui est le titre du livre de Laurence Buell consacré à cela. Il me semble que cette tradition de nature writing, d'écrits de nature, ou de récits de nature, croise ces deux écologies, enfin il arrive qu'elle croise ces deux écologies, en ce sens que d'une part, ce sont des récits à la première personne, hein, si on pense à la référence qui est Sorrow, hein, qui est Walden, ce sont des récits à la première personne, mais ce sont, et c'est le thème même, me semble-t-il, de l'interprétation de Laurence Buell, l'environnement, le milieu dans lequel se trouve le narrateur n'est pas un cadre, n'est pas quelque chose qu'on évoque pour dire autre chose, mais il y a une présence en personne, peut-on même dire, de cet environnement. Et c'est donc ce que je voudrais étudier, la façon dont un certain nombre d'exemples qu'on peut rattacher à cette écologie à la première personne, croisant une écologie à la troisième personne dans une tradition de nature writing à visée écologiste, voir comment les deux écologies se croisent et comment cela convoque l'imagination environnementale au sens où Laurence Buell en parle. Alors, je prendrai trois exemples. Je vais commencer par l'exemple central, parce qu'il va de soi, parce que c'est là où les deux écologies à la première et à la troisième personne se croisent. C'est ce dont vient de parler Raphaël, l'almanach d'un comté des sables d'Aldo Léopold, qui est typiquement à la fois, et son succès vient de là, un livre qui s'inscrit dans la descendance de Sorrow, hein, et en même temps, le moment justement où est exposée une Landessee, qui est une éthique de la Terre avec une maxime objectiviste, et où, d'autre part, j'y reviendrai, Léopold est
prend en compte les développements de l'écologie scientifique de son époque. Donc, je mettrai au centre de ma présentation une référence à l'almanach d'un comté des sables. Alors, je voudrais l'encadrer par deux autres références. Une première que je prendrai en Europe, parce qu'il me semble qu'on a beaucoup, très peu étudié, et on ne s'est pas demandé s'il y avait une tradition des récits de nature en Europe, et particulièrement dans les pays de langue française. Et je commencerai donc par Élisée Reclus, qui me paraît un des auteurs qu'on pourrait mettre dans cette tradition. Et je terminerai, d'où le DVD qui est là, je terminerai par quelque chose qui sort de la littérature à proprement parler, mais qui est aussi une façon de convoquer l'imagination, qui est le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, et que je référerai à un certain nombre de livres de vulgarisation scientifique, comme aussi façon de croiser une référence scientifique et une référence à la première personne. Alors, je commencerai par Élisée Reclus, que je pense que vous connaissez, écrivain, géographe, anarchiste, de la deuxième moitié du XIXe siècle. Je vous dis, il me semble que si on cherchait en France à voir, bon, il y aurait Rousseau, bien sûr, et les rêveries du promeneur solitaire, il me semble que Élisée Reclus figurerait bien dans une étude sur les écrits de nature, Nature Writing en France. D'autre part, Élisée Reclus est un géographe qui a beaucoup fait pour la diffusion des connaissances géographiques et d'une façon qui, aujourd'hui, est très fréquemment référée à l'écologie. Et de ce point de vue-là, on rapproche souvent Élisée Reclus d'un Américain contemporain qui est George Perkins Marsh, qui publie en 1864 la première édition d'un livre qu'on connaîtra beaucoup, qui est Man and Nature, hein, l'homme et la nature, et qu'on considère comme un pionnier de la littérature écologique, un pionnier de la protection de la nature aux États-Unis, en ce sens que c'est le premier, on n'est jamais le premier, mais disons c'est un de ceux qui, les premiers, a fait voir les conséquences de longue durée des actions humaines dans la nature. Il a montré comment l'homme n'était pas seulement une espèce biologique, mais intervenait comme une force géographique dans la nature. Ce qui est à la racine de l'hypothèse aujourd'hui de l'anthropocène, on peut dire que ça, déjà, George Perkins Marsh en parle. Il parle, je cite par exemple, de on traduit par agentivité, maintenant j'aime pas, mais enfin l'agentivité humaine comme une agentivité véritablement géographique. Or, Élisée Reclus est très proche de George Marsh. Quand, en 1868, Élisée Reclus publie La Terre, il dit explicitement qu'il doit beaucoup à Marsh. Mais je dirais que Élisée Reclus a une prétention littéraire que Marsh n'a absolument pas, ne vise pas. Hein, l'écriture de Marsh est une écriture scientifique, pour aller vite. Je prendrai ici comme référence un petit livre souvent réédité, qui est facile à trouver, que Élisée Reclus publie en 1869 et qui s'appelle Le Ruisseau. Et ça me paraît très typique du nature writing à la française, d'une écologie à la première personne. Au sens où, dans cette présentation d'un ruisseau, de sa source à l'embouchure du fleuve qu'il va rejoindre, un narrateur discret, accompagne une présentation donc, qui conjugue la description, le renvoi à l'histoire et à la mythologie, donc la convocation de souvenirs qui ne sont pas seulement des souvenirs scientifiques, mais qui sont beaucoup des souvenirs culturels, et un certain nombre de références scientifiques. Alors, ce qu'on trouve dans ce narrateur qui accompagne le ruisseau qui coule de sa source, même de ses sources, à la mer, on retrouve quelque chose qu'on met en avant, que les gens qui font de l'éco-criticism mettent bien en avant, c'est que dans ces nature writing, le moi tend à s'effacer. C'est pas un moi qui se met au centre du monde, c'est un moi qui accompagne le monde et... mais qui ne s'impose pas. Et c'est typiquement la façon dont procède Élisée Reclus dans le ruisseau, où on le voit faire appel à ses souvenirs d'enfance ou à d'autres. Il y a des narrateurs qui accompagnent, mais sans que ça implique un récit biographique d'aucune sorte. Et c'est en suivant le ruisseau qu'on ne peut être que frappé, à mon avis, de la différence avec ce que présente Marsh. Alors, dans Man and Nature, Marsh suit les quatre éléments. Donc, il y a une étude sur la terre, il y a une étude sur l'air, il y a une étude sur l'eau. Et donc, il y a des chapitres de Man and Nature qui sont consacrés à ce que l'homme fait à l'eau. Et c'est une présentation des actions des hommes. Regagner, repousser, conduire l'eau, la faire circuler, la canaliser, la détourner, la faire venir. Ce que présente Marsh, c'est l'eau vue de la terre. Hein. L'homme est sur la terre et il contrôle plus ou moins bien les eaux, hein, des crues du Nil aux Hollandais et à la terre regagnée sur la mer. On contient l'eau, on la circonscrit. L'eau relie, elle relie entre elles des terres. Au contraire, quand on lit Reclus, et bon, quand on lit le ruisseau, la scène est vue de l'eau, dans l'eau. Et d'une eau, donc, qui est totalement mobile, non assignable à des repères. Hein. Si être géographe, c'est faire des cartes, Reclus n'est pas géographe, parce qu'on ne peut pas faire de cartes du flot de l'eau tel qu'il le présente, de sa mouvance constante. Et c'est ce monde vu de l'eau où, d'une part, on trouve, là, bien sûr, il y a des passages où il nage, où il est dans l'eau, où il se laisse aller dans l'eau, où on ne peut pas... Enfin, moi, je ne peux pas ne pas entendre une référence aux rêveries du promeneur solitaire quand Rousseau raconte comment il se laisse autour de l'île Saint-Pierre, se laisse bercer par les flots, et où on trouve, bien sûr, l'accord du subjectif et de l'objectif. La métaphore du flux de la conscience, hein, dit bien à quel point l'eau qui bouge est une métaphore interne et permet d'accorder la nature en moi et la nature hors de moi. Mais on est donc, de ce point de vue-là, absolument à une écologie de la première personne où la subjectivité ne s'impose pas à l'extérieur, c'est plutôt l'extérieur qui modèle une subjectivité. Mais on n'est pas non plus loin de la science. Michel Serre, dans le livre qu'il a consacré à Lucrèce, à l'invention de la physique, montre bien comment, à côté de la physique des solides, il y a une physique des liquides, et comment la physique lucrétienne est une physique des liquides qui présente autrement les choses. Et c'est chez Lucrèce que Serre trouve, sinon l'idée, du moins l'une des idées de son contrat naturel, hein, de ses Federa Naturae, qui, par lesquels s'accordent les éléments naturels. Donc, je dirais, il me semble que ce que donne l'écologie à la première personne chez Élisée Reclus, c'est cette façon finalement d'annuler la distance entre l'homme et la nature. C'est pour ça que je disais, je ne suis pas dans une opposition homme-nature, je suis dans un autre système où l'homme et la nature vont ensemble sans que rien n'impose quelque chose à l'autre. C'est un type d'accord où on trouve, bon, j'ai dit Élisée Reclus anarchiste, et que on peut dire que Élisée Reclus reprend le message de Thoreau, wild and free, hein, toutes les choses libres sont sauvages, les choses sauvages sont libres, et cette eau est présentée comme une eau libre. Avec, bon, je n'ai pas le temps d'étudier les métaphores littéraires qui le permettent, mais je dirais que ce que Reclus fait passer, c'est, comme il le dit à un moment, celui qui aime la nature de près. C'est une façon de se mettre au plus près de la nature. Et donc, c'est une éthique du local, une éthique de l'appartenance, qui se situe à complète distance de ce que montre Marsh, d'une nature bien ou mal maîtrisée. C'est un autre rapport à la nature, me semble-t-il, que cette écologie de la première personne permet d'introduire. Alors je passe de là à mon deuxième exemple, qui est celui d'Aldo Léopold. Bon, j'irai peut-être un peu plus vite parce que c'est plus connu. Bon, je vous dis, Léopold, c'est typiquement le croisement de la tradition héritée de Walden, hein, et je pense que l'immense succès de l'almanach d'un comté des sables vient aussi de là, hein, que c'est dans la tradition de Walden un des grands livres de cette tradition. Mais comme je disais aussi, donc Léopold croise doublement ce qu'on pourrait appeler l'écologie à la troisième personne, puisque c'est aussi bien la Landesek dont il fait l'exposé à la fin de son livre, que les courants scientifiques de développement de l'écologie scientifique dont il est le contemporain, à savoir aussi bien Clemens et l'organicisme du climax que Tansley et l'introduction du concept d'écosystème, et puis référence scientifique capitale toujours chez Léopold, c'est bien sûr aussi la théorie de l'évolution darwinienne. Et ce que je voudrais suggérer, rapidement aussi, c'est comment l'historiette, hein, le petit récit le plus connu de l'almanach d'un comté des sables, à savoir penser comme une montagne, comment penser comme une montagne croise ces deux écologies, croise l'écologie à la première personne. C'est un texte en trois parties, c'est un texte court qui a un premièrement qui est effectivement la présentation d'une scène dans la montagne, hein, et on entend d'abord le cri du loup dans la montagne, et puis c'est tout à fait cette capacité de l'écologie à la première personne de mettre un jeu, mais un jeu qui s'efface, un jeu qui ne s'impose pas du tout. Après qu'on ait entendu le hurlement et qu'on ait passé la montagne en revue, c'est là que Léopold raconte, intervient à la première personne pour raconter comment il était avec des amis et qu'il tue la louve, et c'est dans le cri de la louve qu'il décrit, qu'il entend ce que c'est la montagne. Alors, ce que c'est la montagne va être repris dans une deuxième partie où à nouveau Léopold dit « je » et dit « j'ai vu la disparition du loup et j'ai vu la végétation arasée, les arbres coupés en moignons ». Donc il décrit là, je dirais, la leçon écologique, à savoir que la disparition du loup entraîne un pullulement des daims ou des cerfs, mais que ceci, surpassant la montagne, il s'ensuit des reprises d'érosion avec désertification et disparition des cerfs. Leçon que dans un troisième temps, il étend à la société tout entière en revenant sur Sorrow, hein, in Wildness and the Preservation of the World, hein, dans le sauvage et le salut du monde, et il dit il faut pas trop de paix, il faut un petit peu de conflit, quoi. Bon. Et alors je trouve qu'il y a là, hein, je vous renvoie là au texte qui est un très beau texte littéraire, et qui en même temps met en place ce qui va être la leçon de la formule de la Landesik, une chose est juste lorsqu'elle aide à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté. Supprimer les loups, ça ne préserve ni intégrité, ni stabilité, ni beauté, puisque la montagne est dévastée. Je voudrais simplement donner un élément qu'on découvre à la lecture du livre de Donald Worster, hein, le Nature's Economy, qui était traduit en français sous le titre Les pionniers de l'écologie, où en fait ce que Worster dit, c'est que c'est le deuxième temps, et moi j'ai vu, etc., qui est réellement autobiographique, puisque Léopold, en tant que forestier en charge de la faune sauvage d'un certain nombre d'États américains, a effectivement participé à ce qui a été une extermination des loups imposée par les services centraux américains, les services fédéraux américains, et qui s'est effectivement traduit par, dans un premier temps, les daims et les cerfs et les ongulés, disons, pullulés, et puis reprise d'érosion. Et donc, finalement, il y a une élaboration littéraire du récit où Léopold disparaît comme scientifique administrateur en charge de la faune sauvage et se présente comme chasseur dans la montagne. Et je crois que cette réélaboration est très importante parce que nous n'avons pas le discours, les mémoires d'un ancien responsable de la faune sauvage qui donne du haut de son savoir à une leçon scientifique, mais nous avons bien l'écologie à la première personne, c'est-à-dire Léopold le chasseur et le prédateur, hein, qui est, fait partie de la même communauté biotique que le loup et qui veut éliminer son concurrent, mais qui n'a pas le regard global de la montagne. La montagne, elle, sait que finalement, la montagne, qu'est-ce que c'est la montagne, mais il faut avoir finalement plus peur des daims ou des cerfs sans loup que du loup. Alors, à partir de là, moi aussi, je voulais citer Gilles Clément, parce que je crois que ce que montre... bonjour. Ce que montre Léopold, et c'est en rapport avec, me semble-t-il, ce que disait Raphaël, c'est que le regard transforme les choses et que, quand je parle de passage d'une écologie scientifique à une écologie à la objectiviste, à une écologie à la première personne, tous ceux qui ont fait de la philosophie savent ça, on ne peut pas passer de ce qui est à ce qui doit être, hein, au niveau du raisonnement, se fait subjectivement dans le regard. Et je voulais justement citer une intervention de Gilles Clément que vous aviez commentée à propos du parc André Citroën dans un congrès du JADBA sur la nature dans la ville, où pour dire le jardin n'a pas été vandalisé, et c'est alors que beaucoup de jardins parisiens le sont, et c'est le signe que y a quelque chose qui s'est bien passé, il y a une vision esthétique qui s'est transformée en vision morale. Et j'avais repris la phrase, hein, il faut d'abord attirer le regard et le faire basculer. Mais je crois que c'est ça que réalise la prose de Léopold, elle attire le regard et elle bascule. Alors si on pouvait projeter le tout début du film d'Al Gore, en passant le pré-générique, enfin tous ces machins-là, là, si on y arrive. C'est pas très grave. Ça, c'est des photos pour qui commence. Il n'y a pas de son. Voilà. Je voudrais juste que vous voyez. Bon, il y a ça, on va y revenir. Voilà. Je voudrais juste que vous voyez la première image. Non, ça, c'est des. Il faut mettre sur play. Il faut mettre sur play, là. Il faut aller sur play. Voilà. Voilà. Non, ouais. Bon, ça c'est le c'est la compagnie.
I had a class that brings up a basic science of global warming, and I'm not going to spend a lot of time on this.
Bon, mais je vais faire comme Raphaël, je vais faire imaginer. Here's what I think is a better explanation. C'est The River. C'est le tout début, mais j'ai pas de.
I had a classmate.
Non, parce que.
I had a classmate in the sixth grade who raised his hand and he.
Arrêtez. Peu importe. Là aussi, je vais faire comme Raphaël, je vais vous demander d'imaginer. La première image, je ne sais pas si vous avez vu le film, la première image est une image qui présente une rivière. On est dans l'eau encore. Hein. Une rivière, c'est un paysage typiquement de zone tempérée, qui n'est pas cultivé, mais qui n'est pas sauvage non plus. On entend une vache, hein, donc s'il y a des vaches, il y a des hommes, en général, hein, même si les animaux existent dans les hommes. En général, quand il y a des vaches, il y a des hommes. Et surtout, tous les commentaires sont des commentaires de sensation. C'est pour ça que je disais, si on entend en anglais, c'est pas dramatique. Sont des commentaires de sensation, et l'image enchaîne directement sur ce que vous avez vu après. En fait, sur la photo de la planète bleue, et puis sur Al Gore en train de faire sa conférence. C'est-à-dire que vous avez une image qui est typiquement subjective. Vous avez de la subjectivité pure, hein, parce que l'image n'enchaîne pas sur pour préciser tel point. Hein, l'image, c'est le souvenir, c'est l'imagination comme mémoire, c'est le souvenir d'Al Gore. Alors pourquoi cette première image qui va revenir ensuite à plusieurs reprises dans le film, alors que l'image suivante, hein, celle que vous avez vue là, qui est bon, la planète bleue hyper connue, c'est une image objectiviste, puisque c'est celle sur laquelle commence la conférence d'Al Gore. Alors, si vous avez vu le film, ou si vous ne l'avez pas vu, je termine, hein, j'en ai pour 5 minutes. Si vous avez vu le film, ou si vous ne l'avez pas vu, le gros du film d'Al Gore, c'est une conférence que Al Gore fait. Alors, dans le film, c'est en Chine, mais peu importe. C'est une conférence que Al Gore fait sur le changement climatique. C'est absolument de l'écologie à la troisième personne. Hein. C'est un cours avec des moyens que nous autres professeurs pauvres n'avons pas. Hein. Non seulement de PowerPoint, mais de dispositifs qui lui permettent de monter. Bref, mais c'est une conférence, c'est de l'écologie à la troisième personne. Alors, que fait l'image de la rivière, eh bien, elle est l'écologie à la première personne. Et à quoi elle sert? Elle sert, c'est ce que raconte Al Gore au début du film, il a eu un professeur qui lui a permis de prendre conscience très tôt des mécanismes de l'effet de serre, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, etc., etc. Et donc, quand il devient homme politique, il se dit, c'est tout simple, on va prendre les mesures qu'il faut. Or, il parle de ça et ça ne donne rien. Et donc, tout le film met en scène Gore comme médiateur entre ce qu'il sait et ce que les politiques devraient faire, et en prenant l'opinion publique, vous, moi, les spectateurs, à témoin et en essayant de les convaincre. Et là, le récit, alors avec cette image, je vous dis, purement subjective, l'écologie à la première personne intervient comme un récit autobiographique où Al Gore, avec des approches très jonassiennes de ce point de vue-là, très catastrophistes, en liant la catastrophe personnelle, raconte, on le voit dans l'hôpital, son fils a été renversé et il laisse de côté tous ses engagements politiques. Il attend qu'on sache si son fils va s'en tirer ou pas. Un peu des larmes, là. Et donc, c'est la découverte que c'est au moment où on va perdre quelque chose qu'on en découvre l'importance, et on va apprendre de la même façon que sa sœur est morte d'un cancer du poumon, qu'elle fumait des cigarettes alors que son père faisait pousser du tabac, etc., etc. Bon, donc, il y a cette façon de... C'est de la captatio benevolentiae, hein, comme on dit techniquement. Il s'agit de convaincre le spectateur, qu'il faut faire quelque chose, il faut intervenir. Alors, si j'insiste sur le film d'Al Gore, c'est que c'est le modèle de beaucoup de livres de vulgarisation scientifique actuellement. J'en citerai deux qui sont d'ailleurs bons. Hein. Je citerai celui de Claude Lorius sur l'Anthropocène, dont je parlais tout à l'heure, et je citerai celui de Patrick Blandin sur la biodiversité. Dans les deux cas, on a exactement la même chose. C'est-à-dire, on a une présentation, je dirais, de vulgarisation scientifique, de bon niveau, et puis on a des éléments biographiques. Une présentation en première personne, dans les deux cas que j'ai donnés, c'est un glaciologue d'un côté, un spécialiste des araignées. Oui, mais sa thèse, c'est sur les araignées. Mais oui, non, mais j'en dis, c'est un ami, hein, Patrick Blandin. Non, mais pour dire, voilà, il y a un schéma, hein, où on croise et l'écologie à la première personne et l'écologie à la troisième personne, et je dirais, quel que soit le respect que j'ai pour ces deux livres qui sont de bons livres, je suis un peu mal à l'aise, moi. Et je me suis demandé, mais pourquoi ça marche pas aussi bien que dans Léopold ? Alors, j'aurais trois raisons, et je terminerai là-dessus, hein, à donner rapidement. La première, c'est que, justement, il n'y a pas ce qu'il y a dans la montagne de Léopold. Il n'y a pas la réécriture littéraire à la première personne. C'est comme si Léopold disait « J'ai été... J'ai été forestier, spécialiste de la faune sauvage, et ça m'a beaucoup intéressé, et moi j'ai quelque chose à vous dire. » Mais il garderait sa position de scientifique. Il n'y a pas cette réécriture qui est toute la beauté de penser comme une montagne, la montagne le soir, Léopold à cheval avec deux amis. Il n'y a rien de tout ça. Bon. Donc, on sent plus un procédé. La deuxième chose, c'est qu'on est dans je pense que la multiplication de ce genre de livres de vulgarisation scientifique tient à quelque chose. Alors, je ne sais pas si Claude Allègre est venu ici, mais mais à l'écoscepticisme. Et c'est une façon, si on pense que, moi je reprendrai volontiers l'explication qu'Ulrich Beck donne, enfin, qu'on peut trouver chez Ulrich Beck de l'écoscepticisme, qui est le décalage complet entre le monde dans lequel nous vivons, qui est pas un monde, qui est un monde beau aussi, et ce qu'on nous dit d'une catastrophe à venir, qui n'est accessible qu'à un regard scientifique. Nous ne voyons pas le changement climatique. Et donc, il y a un effort pour mettre en accord le monde vécu et le monde scientifique. Et donc, le scientifique se met comme un homme du monde vécu et qui va faire le go-between, le médiateur. Ça ne marche pas à tous les coups. La troisième chose, et je termine absolument là-dessus, c'est bon, ce que j'ai montré aussi bien de Reclus que de Léopold, ces écologies à la première personne, c'est des éthiques du local. C'est des éthiques d'appartenance. Je pense que c'est beaucoup plus difficile à montrer sur le global. Et c'est pourquoi, dans mon troisième temps, je dirais la limite du croisement. Voilà.
Merci. Alors, une réaction immédiate, mais vous allez presque être privé de café. Hein.
Désolée.
Non, mais il n'y a pas de souci.
J'ai parlé trop longtemps.
J'étais très content d'entendre parler de Reclus, parce que c'est vrai que c'est...
Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire.
Et oui, c'est l'une des figures rares, mais importantes pour l'Europe, pour, ouais. Je pense, le 19e siècle européen, de penseurs, d'écrivains, de personnalités, de figures équivalentes à ce qu'on a dans le transcendantalisme américain. Et il n'y en a franchement pas beaucoup. Les autres, il faut aller les chercher chez les romantiques allemands, mais c'est déjà beaucoup plus spécifique. Très c'est différent. Un discours très technique, philosophique, etc. Donc, merci pour Reclus, merci pour Le Ruisseau, et bon, pour cette sorte de traversée, de recherche de de l'articulation juste, en fait, entre l'homme et la nature, entre l'environnement sauvage et la présence humaine, puisque c'est quand même un petit peu autour de cette notion-là que tourne votre première personne. C'est sûr que les autres approches exclusivistes ou totalement déterminées par la surpuissance de l'homme sur la nature sont problématiques, l'une et l'autre. Est-ce qu'il y a des questions à adresser à Catherine Larère ou sur les différents auteurs ou sur les différentes thématiques?
Dans cette catégorie-là aussi.
Honnêtement, je ne connais pas très bien Michelet. Je ne connais pas très bien le 19e siècle, donc je ne connais pas très bien Michelet. Il faudrait voir. Moi, ce qui m'intéresse dans ces écologies à la première personne, c'est la capacité d'auto-effacement du jeu. Le jeu est là, mais il s'auto-efface. C'est ça qui me frappe chez Reclus. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas chez Michelet. Mais il faudrait aller voir. Il faudra aller voir.
Alors ça, c'était l'autre point que je voulais un petit peu soulever. Ça met le doigt, je crois, sur un des problèmes spécifiques de l'écriture environnementale, parce qu'effectivement, l'homme doit s'effacer face à la nature, mais il est quand même là, et il est là, d'une certaine façon, pour témoigner, c'est-à-dire pour réasseoir sa propre position de sujet, sa propre position d'autorité. Et la voix médiane, la première personne, est peut-être le moyen de circuler ou de défaire ce paradoxe. Qui est presque en fait une double impossibilité. Hein. Comment faire pour ne pas être là tout en y étant, hein. Ouais. C'est un peu la position ambiguë de l'écrivain de nature au sens général du terme. Donc c'était, je trouvais assez précis dans votre propos cette problématique-là, qui est une problématique littéraire à part entière cette fois.
C'est ça. Et moi, je ne suis pas spécialiste de théorie littéraire, donc je ne sais pas forcément analyser comment ça se passe, les moyens littéraires, mais c'est ça qui me frappe dans le résultat. Et c'est ça qui me frappe dans le livre de Laurence Buell, de dire, c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de considérer que dans la littérature, la nature, c'est le cadre. Bon, alors que tous ces récits de nature, c'est une façon de faire intervenir la nature au premier plan.
Comme acteur.
Comme, et de ce point de vue-là, le ruisseau de Reclus me paraît exemplaire.
Catherine Larrère, je ne pouvais pas ne pas poser la question, parce que vous avez parlé de la vulgarisation scientifique, on se sent un peu concerné ici. Ouais. Donc vous êtes assez pessimiste par rapport justement aux messages qui peuvent être donnés par les scientifiques vulgarisateurs, j'aime pas du tout ce terme. Non, on préfère plus, ici la mise en culture de la science dont parle Lévy-Leblond. Mais oui, il y a un certain pessimisme dans ce que vous dites, parce que les gens qui ne sont pas formés à la culture scientifique s'intéressent quand même à tous les problèmes liés à la nature, au climat, etc. Donc vous avez l'air, vous semblez dire que sous prétexte qu'on les vulgarise, le scientifique se pose uniquement scientifique, ne peut parler que comme scientifique. Mais moi, je peux vous citer des noms de gens qui sont venus ici et qui, justement, savent très, très bien, comme Valérie Masson-Delmotte, savent très, très bien vulgariser, entre guillemets, des notions compliquées. Mais vous avez tout à fait raison de dire aussi qu'il y a une difficulté à transmettre le discours, et le discours peut paraître beaucoup plus simple par la littérature et par l'effet littéraire, parce que c'est très, très... Une belle lecture, c'est toujours très, très intéressant. Productif, un discours scientifique, ça peut être contre-productif. Parce que ça peut être, on peut ne pas le comprendre. Donc là, j'ai été un peu inquiète. Ou alors, je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire, mais vous savez très bien qu'on peut ne pas réagir à votre...
Non, mais je vais préciser. Je suis tout à fait d'accord avec vous et sur ce que le terme de vulgarisation scientifique... Je suis entièrement d'accord. Je crois que là, j'essaie de dire quelque chose comme un malaise que j'ai eu à l'égard du dernier livre de Patrick Blandin, et j'aimerais qu'il soit là et que j'en discute avec lui, parce que il a sorti son livre sur la biodiversité l'année dernière, et on m'a demandé dans un séminaire du muséum d'intervenir pour le présenter. Il devait être là, il était malade, il pouvait pas être là, et j'ai mis un certain temps à comprendre ce qui me mettait mal à l'aise dans son livre. Alors que j'avais en même temps que je préparais ça, c'était une conférence qu'il avait faite à l'INRA et qu'il avait publiée dans la collection que dirige Raphaël, là, de Quay. Et bon, moi je ne suis pas biologiste, hein, je ne suis pas écologue, j'essaie de ne pas être idiote, mais je dis des choses que je ne comprends pas. Et je me sentais beaucoup plus à l'aise dans sa conférence, dans la publication de sa conférence, que dans son livre. Et je me suis demandé pourquoi. Et c'est après avoir mis en me dire, mais au fond c'est la même chose que le film d'Al Gore, mais au fond c'est la même chose que le livre de Claude Lorius. Et je dis, le film d'Al Gore, bon, je l'aime pas pour des raisons politiques, mais au niveau de la vulgarisation scientifique, disons la présentation, c'est une conférence, hein, ça a rien de scandaleux autant que je puisse savoir. Donc c'est pas la question. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que, pourquoi est-ce que ces scientifiques qui ont des choses à dire, hein, et ce que Patrick Blandin a à dire dans son livre, c'est qu'il faut protéger la nature, et il faut protéger la nature pas pour des raisons économiques, mais pour d'autres raisons. Bon, donc il a quelque chose à dire. Bon, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il raconte son histoire? Pourquoi il faut qu'il se présente en personne? À quoi ça correspond? Et c'est là que donc, je propose l'explication. C'est une façon de lutter contre l'écoscepticisme. Parce que le scientifique se présente en personne comme quelqu'un de sympa, si je puis dire comme ça. Hein. Et quelqu'un, qui n'est pas sympa. Dans le livre de Claude Lorius, bon, il se présente, il explique ce que c'est que de passer d'hiberner là-bas dans l'Antarctique. Et bon, c'est des formes... Dès qu'il y a une première personne, il y a des possibilités d'identification. Et c'est là que je me suis dit, mais au fond, Léopold, il fait un peu ça, mais il le fait mieux. Il le fait beaucoup mieux. Et je suis d'accord que son savoir scientifique, il le met beaucoup mieux en culture. Hein. Et donc, c'est pas du tout dans un pessimisme ou un scepticisme vis-à-vis de la possibilité de transmettre un contenu scientifique dont le lecteur n'a pas le moyen de maîtriser. Moi, si vous voulez, moi, j'ai passé ma vie à faire de l'interdisciplinaire, donc je sais ce que c'est d'essayer d'expliquer un raisonnement philosophique à des gens qui ne sont pas philosophes. Donc, je ne le maîtrise pas forcément. Mais je veux dire, je sais ce que c'est. Mais je n'ai jamais pensé à raconter ma vie.
Peut-être parce qu'elle n'est pas intéressante, j'en sais rien, moi. Et donc, je me suis demandé, mais pourquoi ils font ça? Et donc, c'est là-dessus qu'est ma question. Et je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure réponse à l'écoscepticisme.
Mais est-ce que ce n'est pas justement... Est-ce qu'ils ne reprennent pas une tradition anglo-saxonne?
C'est possible. C'est possible. Mais si vous voulez, je ne conclue pas. Je pose la question. D'accord. Voilà.
Bien, si vous voulez un café, c'est maintenant et c'est rapide.
Merci beaucoup à tous, en tout cas. Merci. Oui.